Voilà, moi je voudrais partir d'un problème, qui n'est pas un problème du tout posé par Kant, hein, problème général, qui est un problème qui est mon problème, enfin, quelque chose qui me questionne, problème double d'ailleurs. Et le premier problème, c'est un. Il vient d'un étonnement, quoi. Vous savez que c'est le départ de la philosophie, l'étonnement, quoi, depuis Platon. Et cet étonnement, il porte sur. On pourrait appeler sur la langue commune, est-ce que sur ce que j'ai envie d'appeler le lieu commun de la langue et le lieu commun du sens. Voilà. Ça fait lien d'ailleurs avec l'intervention de Jean-Luc Nancy la dernière fois, qui s'interrogeait sur le sens, justement. Qu'est-ce que du sens, qu'est-ce qui fait sens? Bon, alors mon étonnement, moi, il vient de ce que. Ce que je suis frappé du rapport très différent qu'entretiennent d'un côté les sciences de la nature, sciences formelles, donc biologie, sciences physiques, mathématiques, sciences formelles. Donc le rapport qu'entretiennent ces sciences au langage, à la langue commune, et de l'autre côté le rapport qu'entretient la philosophie à la langue commune, de même que la littérature à la langue commune. Alors, ce qui me frappe là-dedans, ce qui m'étonne, c'est que les sciences, sciences de la nature, sciences formelles, développent un rapport qui est extrêmement, on peut dire, critique, prennent de la distance par rapport à la langue commune, dans la mesure où la langue commune, au fond, est chargée d'ambiguïté. Il y a une ambiguïté fondamentale des mots. Un mot peut avoir tout un tas de sens, le mot chien, une diversité de significations, etc. Et plus les langues se spécialisent, plus elles développent leurs méthodes, plus elles s'enfoncent dans l'analyse de leurs objets, plus, encore c'est une image, enfin, plus elles constituent une sorte de langue à part, hein, ce qu'on appelle des langues de termes, qui font que la codification chimique, ou le langage mathématique sont des formes de langage qui, pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, sont incompréhensibles. C'est-à-dire qu'un texte de mathématiques, d'initiation à l'université, et pour quelqu'un qui n'a pas fait des mathématiques, mais un peu sérieusement, est illisible. Ce qui me frappe, c'est que en philosophie et en littérature, on travaille au contraire avec la langue commune. Voilà. Alors, il y a des textes littéraires qui ont leurs difficultés. Et ça dit, tout le monde peut lire un très grand texte littéraire, condition de savoir lire, évidemment, quoi. Et de même, c'est vrai, j'ai envie de dire, quand même, pour les grands textes de la tradition philosophique, quoi. On a un peu une image, parfois... selon laquelle la philosophie développerait un langage très technique. Mais c'est vraiment une image, en fait. Il y a peu de mots au total, il y a peu de termes vraiment techniques en philosophie. Si on prend, par exemple, la critique de la raison pure, c'est vraiment un monument extrêmement complexe, c'est vrai, dans lequel il y a une invention de concepts étonnante. Bon, c'est un des sommets de la philosophie, et pourtant, le nombre de termes techniques est très réduit dans la philosophie de la raison pure. Il y a quelques-uns. L'impératif catégorique, par exemple, c'est une invention de Kant. Il n'y en a pas beaucoup des termes réellement techniques. Et même ce sommet de la philosophie, c'est difficile de le lire. Mais cela dit, quelqu'un qui n'est pas absolument un spécialiste peut lire la critique de la raison pure. Ce que font des tas, finalement, d'étudiants qui sortent du bac, hein, qui ont une formation en philosophie très générale, qui n'ont même pas toujours fait une terminale littéraire, hein, enfin, et puis qui vont lire, au moins en partie, de la critique de la raison pure en Hippocagne, ça se lit. Et ils vont y parvenir, quoi. Alors que pour lire un des sommets, un des monuments de la pensée mathématique ou en sciences physiques, on ne peut pas faire ça comme ça à la sortie de sa formation au lycée, quoi. Bon. Donc il y a vraiment là deux rapports complètement différents à la langue commune. Là où là où ça commence à m'étonner, c'est que c'est qu'en même temps, la philosophie interroge notamment les sciences. La pensée mathématique, les sciences physiques, le type de vérité, les critères de vérité qu'ils cherchent à élaborer, leur portée, leur sens. La philosophie va discuter pied à pied les méthodes, voilà, les idées développées, etc. dans les sciences. Et c'est là que je trouve ça curieux, au fond. C'est qu'on puisse, enfin, c'est que l'interrogation sur, sur les fins, sur la vérité, au sens où la philosophie l'interroge, ou est seule à l'interroger, sur le sens, et même quand il engage une réflexion sur les sciences, eh ben, procède par la langue commune. Voilà. Comme s'il y avait donc une vérité de cette langue commune. Comme si même la question de la vérité, la question du sens, passait, procédait par cette langue commune, par une épreuve de cette langue commune. Justement, cette langue qui cherche à fuir les discours scientifiques. Parce qu'elle ne serait pas assez rigoureuse, elle ne serait pas assez précise, parce qu'elle est pleine de contingences, parce que c'est plein d'ambiguïté, parce que c'est le français, l'italien, l'allemand, bon, c'est aussi les hasards de l'histoire, les hasards des formations historiques. Alors que la codification chimique se comprend partout, de la même façon dans le monde. Quoi. Alors, comment se fait-il que la langue commune puisse être ce lieu, apparemment, du sens, de l'élaboration du sens, ce lieu d'élaboration de la vérité ? Voilà, ça m'étonne. Ça me semble très curieux. Voilà. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut réfléchir sur le statut de la littérature aussi, là. Je noue ici d'emblée la question de la langue littéraire, la question de la langue philosophique, parce que je crois que ça permet, disons, de marquer pour moi fortement à quel point la littérature pense, évidemment, que c'est pas si. Il y a des gens parfois qui sont tentés de croire ça, que c'est la littérature, ce serait simplement une espèce de, je sais pas, ce serait pour faire beau ou joli, ou simplement pour s'émouvoir, ce serait le style, ce serait, comme disait Borges, quelque chose d'acoustico-décoratif, enfin. Non, on est bien dans un enjeu de sens très fort. Donc, je voudrais essayer de penser ça, alors philosophiquement, un petit peu aussi ce lieu de la littérature, et cette question de la langue. Alors, j'y insiste un peu par rapport à la littérature. Bon, bien sûr, dans la littérature, il y a la tradition littéraire, il y a une histoire du discours, il y a, comme dit Bourdieu, un champ littéraire, etc. C'est vrai. Mais je ne pense pas néanmoins que la littérature soit une affaire de puriste, quoi. De puriste de la langue, quoi. Il n'y a pas de langue pure. Je crois que quand même, la littérature toujours travaille avec, même s'il y a une tradition littéraire, mais avec la langue aussi telle qu'elle est. Quoi. Voilà. Une sorte d'état de fait de la langue avec lequel travaille la littérature. Voilà. La période du Duras, c'est travailler avec le français aussi, qui est quand même le français des années 50, 60, 70. Quoi. Voilà. Et néanmoins, ça produit du sens. Alors, bon, il me semble qu'un des points communs entre littérature et philosophie, ce qu'elles engagent, c'est une pratique de la langue dans laquelle le sujet, c'est ça comme ça pour l'instant, comment dire, s'engage en tant que, se réfléchit hein, en tant que sujet vivant. Voilà. Mais sujet vivant, vivant de parler, vivant de langage, justement. Voilà. Il n'y a pas, dans la littérature, dans la philosophie, la distance qu'on trouve dans les théories, distance entre un sujet connaissant et puis de l'autre, puis l'objet qu'on cherche à interroger, avec un effacement du sujet, hein, en mathématiques qui parle, bon, qui pense, on en fait abstraction. En littérature et en philosophie, il y a l'abolition de cette distance entre sujet et objet. Et en fait, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de sujet d'ailleurs, même en littérature. On est engagé, emporté par la langue. On n'est pas sujet de cette langue, exactement. Voilà. Bon, je dirais qu'à la fois en philosophie et en littérature, ce qui est mis en œuvre, c'est ce qu'on pourrait appeler, il me semble, une parole vive, quoi. Parole vive. Bon. Alors, cet étonnement-là, hein, du fait qu'on puisse aller, on aille interroger jusqu'aux sciences à partir du lieu commun qu'est la langue commune, et que ce soit dans cette langue commune que s'assigne l'horizon du sens et de la vérité, à ce paradoxe-là, pour moi, s'en ajoute un second, qui est un paradoxe à la fois, enfin, comment dire, qui est une émergence historique, mais qui dépasse cette seule dimension historique, quoi. Ce paradoxe, c'est que j'ai envie de partir d'une réflexion que fait Gilles Deleuze dans l'ABCDR, je vais dire de mémoire à peu près là, mais c'est ça son idée en gros. Il dit que le grand problème, il repère comme ça des grands problèmes qui spécifient finalement trois grandes époques, hein, philosophie, la pensée, le 17e, le 18e, le 19e. Et il dit, le grand problème du 17e siècle, c'est la question de l'erreur. Celui du 18e siècle, le grand problème, celui de l'illusion. Et puis, au 19e siècle, la grande question, c'est celle de la bêtise. Bon, il dit ça assez vite. Bon, alors, on connaît comme ça un peu l'histoire, la philosophie, et pas que de la philosophie, enfin, je pense qu'on peut être que d'accord. Hein. Bon, le problème, l'erreur, ce qui m'intéresse, c'est la figure de la raison qui est engagée là-dedans. Le problème de l'erreur, par exemple chez Descartes, enfin, on est vraiment, comment une raison, à certains qui essayent, comment dire, de se trouver un fondement pur en elle-même, etc., absolument fondé, fondé sur un sujet, pensant, etc., comment cette raison peut penser le fait qu'elle erre, hein, qu'elle soit dans, qu'il y ait l'erreur, quoi. On est dans une extériorité, hein, entre là, la raison et l'erreur, si je puis dire, quoi. C'est cette extériorité qu'il s'agit de résoudre. Alors qu'au XVIIIe siècle, le problème de l'illusion, c'est déjà quand même le problème d'une erreur particulière qui est l'illusion, mais qui habite à beaucoup d'égards le sujet pensant, en tant que ce sujet pensant, c'est un sujet désirant. Quoi. Voilà. Et peut-être bien plus que ce désir porte la raison, voire même que la raison elle-même puisse être portée d'une manière essentielle par de l'illusion. Quoi. Voilà. Donc là, si vous voulez, il y a une espèce de nouage, vous voyez, on n'a plus ce rapport, c'est très schématique, hein, discutable, mais il n'y a plus ce rapport d'extériorité, vous voyez, qu'il y a dans, disons, le face-à-face, hein, entre raison et erreur, hein, dans la question de la raison et l'illusion, il y a déjà une espèce, vous voyez, d'entremêlement comme ça, hein, qui est problématique, quoi. Et alors, au XIXe siècle, effectivement, enfin, ça me semble assez clair, mais ça ne me semble pas tellement interrogé, finalement. C'est vrai que le grand problème, certainement, c'est la bêtise, quoi. Et ça m'intéresse de le resituer dans cette espèce de petit parcours, là, parce que la bêtise, là, c'est pas la bêtise qui serait simplement... le dehors, le pur négatif de l'intelligence, quoi. C'est pas le vide d'intelligence. C'est pas cette bêtise-là qui est en jeu, justement. c'est pas et la figure de la raison ou de l'intelligence, ça comme ça, enfin, qui est en jeu, c'est pas une raison qui serait sûre d'elle-même et qui pourrait repérer les marques de la bêtise et puis critiquer cette bêtise comme ça à distance. C'est pas ça qui se passe au XIXe siècle. Bon, je prends un exemple simple, c'est évident, je crois. Si on prend mon texte littéraire exprès, là, si on prend Madame Bovary, bon, on a 500 pages dans lesquelles on n'a pas affaire simplement à la description d'un personnage qui serait bête, abîmé dans son hystérie, et puis le point de vue qu'on aurait, nous, lecteurs, ce serait un point de vue qui serait celui d'une intelligence, d'une intelligibilité de cette bêtise de l'autre, qui nous placerait comme ça à distance. C'est pas ça. Évidemment, c'est pas ça. C'est 500 pages de quelqu'un d'extraordinairement intelligent, mais d'une intelligence qui est nouée à cette bêtise en jeu, quoi, qui est un rapport de fascination, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on n'est pas simplement dans l'extériorité à cette bêtise, pas du tout même. Et on lit 500 pages qui sont 500 pages merveilleuses de littérature en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Ouais. Et je crois que c'est vrai chez un certain nombre de grands auteurs, d'autres grands auteurs. Chez Balzac, chez Rimbaud, c'est pas égard, chez Baudelaire, chez Hugo. Et puis il y a au moins un grand philosophe qui raconte ça de manière très claire, il me semble, c'est Nietzsche. Alors. Bon. Alors c'est problématique, hein, ça engagerait à penser la bêtise tout autrement que de la façon dont on la pense ordinairement, quoi, et de même, du coup, la raison aussi. Voilà. Bon, j'ai utilisé le terme de bêtises, là, pour l'instant, un certain nombre de valeurs, mais je voudrais m'en tenir à l'expression française, mais à l'expression de lieu commun. Voilà. Il semble que, par exemple, tous ces auteurs sont confrontés très fortement dans ce grand siècle littéraire, sont confrontés à la question du lieu commun. En même temps, évidemment, ça n'a rien à voir, en même temps, ils sont confrontés, mais la naissance du roman a à voir avec ça aussi, avec l'entrée sur scène des masses, de la masse populaire, du peuple. Confrontation au lieu commun. Au lieu commun, et je crois que dans cette confrontation au lieu commun, il y a quelque chose qui touche à une certaine vérité de ce qu'est la littérature, ou en tout cas de ce qu'est la langue, justement, effectivement, comme lieu commun, lieu commun du sens. Et là, pour moi, il y a lien entre donc les deux problèmes. Voilà, donc ce deuxième problème, ce problème de la bêtise, du lieu commun du sens, hein, au sens de tirerait du côté de la bêtise, voilà, redouble le premier. Hein. La question de la langue commune. Alors, pour essayer de traiter un peu ces problèmes, enfin, traiter c'est beaucoup dire, hein, essayer déjà de les aborder, un petit peu les cerner, essayer de formuler un certain nombre de questions. Pas la prétention de traiter entièrement ce problème-là. Je m'étais dit que peut-être il y avait quelque chose chez Kant qui pouvait nous permettre de penser un petit peu ce qui se passait là. Voilà. Alors, jamais Kant ne parle ça. Hein. Mais c'est ça qui me semble intéressant avec un philosophe, c'est pas d'aller répéter simplement la lettre de ce qu'il raconte, c'est que ses concepts sont vivants et donc de pouvoir partir avec, évidemment, quoi. Bon, c'est pas lié simplement à un problème de date. Bon, il est vrai que Kant meurt au tout début du XIXe siècle, quoi. Bon, mais c'est pas parce que comme ça, il ferait pont entre le 18e et le 19e, du fait de la durée de sa vie. C'est pas tellement ça la question. C'est que. Bon, c'est peut-être lié au fait, d'une part, que Kant erre les grands philosophes des Lumières. Et que dans la pensée des Lumières, ce qui est en jeu, c'est quand même aussi la pensée du commun, la pensée du sens commun, la question de la liberté de tous pour tous. C'est quelque chose de très, très général, mais. Et dans cette question de la liberté, il y a bien un enjeu de la langue qu'on parle en philosophie notamment. Bon, mais je vais y revenir, mais plus spécifiquement, il me semble que chez Kant, c'est à travers la question de la moralité. De la réflexion chez Kant sur les fondements de la moralité, plus précisément de la question de la raison pratique chez Kant, qu'on peut peut-être mener une réflexion pour essayer de penser cette question de la langue commune et du lieu commun. Bon, avant d'aller directement à Kant, je vais faire un petit détour. Bon, pour Kant, sur le problème de la raison pratique et du fondement de la moralité, ce qui va être décisif, notamment, ça va être sa lecture de Rousseau. Rousseau va lui apporter quelque chose de décisif, même si ensuite il va opérer tout un tas de déplacements. Alors, c'est vrai, je rappelle Jean-Luc Nancy rappeler ça, il y a des textes dans lesquels, effectivement, Kant explique qu'à chaque fois que c'est lui était même difficile de lire Rousseau, parce que déjà, avant de pouvoir pénétrer pleinement le sens et d'exercer pleinement sa raison, il fallait qu'il fasse plusieurs lectures, puisqu'il avait tendance à pleurer tellement il était ému par certains des textes de Rousseau. Et un des points qui va être décisif dans la pensée de Rousseau pour Kant, hein, c'est le fait que Rousseau va penser la moralité, hein, la question de la définition du bien, finalement, à partir de la voie, ce que Rousseau appelle la voie de la conscience, sensible au cœur. C'est-à-dire que Rousseau va essayer d'expliquer qu'on peut penser la moralité qu'à partir d'un fondement qui serait intérieur en chacun des hommes. Au lieu de penser, comme on faisait, la moralité à partir de la définition d'un bien. Ouais. Par exemple, lié à la représentation qu'on avait, c'est pas qu'un exemple, de Dieu. Et puis on pouvait réfléchir sur ce que ça impliquait, hein, comme définition, comme horizon du bien, hein, par rapport auquel il fallait que les hommes se règlent. Non, Rousseau, il va penser que s'il y a la morale chez les hommes, et il y en a, il faut que le fondement de la moralité il soit inscrit en chacun des hommes. Ce qu'il appelle la voie de la conscience. Souvent, elle est recouverte, mais. Voilà, elle est sensible. Hein, sensible. Bon, ça, c'est très important pour Kant. J'ai rien montré pourquoi, mais. Je vais juste faire un point là sur Rousseau et sur le philosophe des Lumières, le rapport à la langue. C'est très rapide, mais quand même, c'est frappant de. Eh bien, les philosophes des Lumières, Rousseau, Diderot, Voltaire, etc. Une chose qui est très frappante, c'est quand même ce sont des philosophes écrivains, quoi. C'est-à-dire que ce sont des philosophes. Et de très grands écrivains. Mais sur quoi ? Ce ne sont pas simplement d'un côté des philosophes, hein, qui écrivent des textes philosophiques, et de l'autre côté des écrivains. C'est ce que sont. Ils inventent le conte philosophique, etc. Hein, cette espèce de nuage entre littérature et philosophie. Quoi. Bon. Alors, pourquoi ils font ça ? Pourquoi ces philosophes, au lieu de faire comme faisait, je ne sais pas, moi, Descartes ou Leibniz, hein, écrivent des textes très complexe et extrêmement intéressant. Mais enfin, avec un statut, je ne dis pas que c'est de la théorie, je ne crois pas qu'il y ait de théorie en philosophie, mais enfin, en tout cas, avec un statut conceptuel, enfin, qui faisait que c'était quand même, bon, peut-être pas lisible, toujours, facilement. Je dis ça au risque de me contredire, mais enfin. Pourquoi ces philosophes font ça, ces philosophes des Lumières ? L'une des raisons, c'est que, justement, ils refusent, pour dire chose un peu brutalement, la façon de parler des théologiens et des métaphysiciens qui leur sont liés. Je dirais, ils refusent de parler en latin, de parler la langue commune. Ils veulent parler la langue commune et ils veulent que ce qui soit dit puisse être entendu par tous, vraiment. C'est aussi ça la question de la littérature. Soit entendu par tous, mais soit sensible à tous. Et comme en plus on est dans une pensée, en plus aiguë, qui cherche à renverser la construction pyramidale de la société avec schématiquement le peuple. Clergé, noblesse, roi, Dieu au-dessus. Il renverse cette pyramide et on va en passer au contraire par la question de quoi ? De l'expérience, du corps. On ne part pas d'en haut, on va partir d'en bas. L'expérience, le corps, la sensibilité, la langue commune, la littérature, le mythe du bon sauvage, etc. Qu'est-ce qu'un premier homme ? On part des hommes, on part de l'histoire, on part de la question de la Genèse. Voilà. Histoire de voir comment les sociétés sont construites, voilà, au lieu de partir d'un schéma qui serait celui de comment Dieu a voulu et comment interprète-t-on les textes, qu'en disent les théologiens. Évidemment, il y a un enjeu politique derrière ça. Bon, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a aussi un enjeu qui est celui de la langue. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que tous ces auteurs travaillent littérairement la philosophie. Voilà. Ils travaillent dans notre langue. Voilà. Dans leur langue, en tout cas, leur langue commune. Le latin, etc. Bon. Alors, je reviens à cette question donc de la moralité en soi. Voilà. Je voulais faire un petit détour, mais ça me semblait. Voilà, peut-être important d'entendre ça en même temps. Sur cette question du rapport à la langue. Alors, bon, le problème, je pourrais formuler, pour entrer dans Kant, ce serait la question, ce serait de savoir, au fond, qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est juste ? Comment définir ce qui est juste ? Comment trouver un fondement à la moralité et permettrait de définir enfin ce qui est juste. Bon, dès qu'on pose cette question, évidemment, il y a un problème qui nous assaille, c'est que on sait bien tous, parce qu'on constate, que il y a une multiplicité de conceptions morales. Bon. Ça varie selon les groupes, les sociétés, dans l'espace, dans le temps, et même selon les individus, c'est-à-dire ce qui est juste sur tel ou tel problème. C'est bien compliqué. Et en plus, tout de même, on sait bien que cette diversité, il faut savoir aussi, pour des raisons de justice, il faut savoir aussi l'entendre, quoi, et la prendre en compte. Bon. Seulement, en même temps, il faut bien dire qu'on ne peut pas en rester au simple constat de cette diversité. Ça me semble assez clair. Ça marche tant qu'on est à distance et qu'on n'est pas dans le conflit moral. Quoi. Mais il y a un moment, est-ce qu'il faut, chose toute bête, est-ce qu'il faut la peine de mort, est-ce qu'il ne faut pas la peine de mort, est-ce qu'il faut, quelle place accorder à la religion dans une société bon. On ne peut pas s'en tenir à simplement la question de la diversité comme ça des points de vue, c'est-à-dire adopter finalement un point de vue qui est un point de vue extérieur et j'ai envie de dire touristique, quoi, folklorique à l'égard de la diversité de moralité. Il y a un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et dès lors que des individus ou des groupes avec des conceptions morales très différentes sont amenés, conduits à vivre ensemble, ben, il va bien falloir définir voilà, les règles de ce vivre ensemble. Quoi. Et là, si on en reste au simple constat de l'infinie diversité des points de vue, ben, ça veut dire qu'on ne peut donc énoncer aucune règle, qui a un quelconque fondement objectif. Donc ça veut dire que la morale est subjective. Mais si c'est subjectif, ça veut dire qu'il n'y a pas de morale. Évidemment. Ah oui, ça veut dire que... Hein, toi, tu conçois les choses comme ça, ben moi, je les conçois comme ça, très bien. C'est la violence, quoi. Voilà. Ce qui va faire loi, si je veux dire, c'est la violence, quoi. Voilà. Question de la moralité, c'est bien trouver la règle, les règles qui nous permettent de vivre ensemble, quoi. Tout le problème de la tolérance, quoi, hein, sur lequel on sent souvent... On est tenté, il me semble souvent aujourd'hui, hein, de penser la tolérance sur un mode un peu très mou, comme une coquille vide, quoi. Hein. La tolérance, ce serait simplement pouvoir rassembler et reconnaître l'infinité des différences, quoi. Comme si tout le problème de la tolérance, c'était pas d'intervenir quand il y a l'intolérable, hein, c'est-à-dire quand il y a du conflit, hein, entre les différentes conceptions de la moralité, quoi. Et la question, c'est bien de savoir comment on règle ça objectivement, et c'est pas juste reconnaître ces différences. Quoi. Alors, trouver un fondement, hein, un fondement à la moralité. Bon, c'est très problématique, évidemment, c'est très complexe, semble-t-il. Ce qui est sûr, c'est donc que si on s'en tient à l'idée qu'à chacun sa morale, il n'y a pas de morale. Voilà. Pour dire les choses rapidement. Deuxième problème que ça pose, j'ai envie de dire, c'est un problème de. C'est un problème de méthode. Quelle méthode mettre en œuvre pour établir les fondements, hein, qui faudrait que ce soit des fondements universels, hein, de la moralité. C'est le problème que Saussure, au fond, ça. Les fondements universels de la moralité. Bon. Bah, je dirais que le premier problème, hein, le fait que nous soyons confrontés à une diversité de morale, à mon avis, se redouble quand on s'interroge sur la méthode pour essayer de dégager ces fondements universels de la moralité. Il se redouble parce que, en un sens, il faut bien partir. C'est justement ce qu'on fait Rousseau, ce qu'a fait Rousseau d'abord, ce que va retenir Kant. Il faut bien partir en même temps de la morale telle qu'elle est. Voilà. Alors, tout le problème, c'est que, mais oui, justement, telle qu'elle est, elle est diverse, elle est contradictoire. Bon. Alors, idée de Kant, si je puis dire, hein. C'est un peu cavalier, hein, peut-être, il y a vraiment des Kantiens, hein, bon, mais enfin, je crois que c'est quand même ça, au fond, quoi. C'est que, il faut bien partir de l'analyse du fait moral, c'est-à-dire qu'en même temps, la moralité, c'est un fait, hein. Et donc, partir du fait moral tel qu'il est, hein, au lieu de chercher d'imposer aux hommes une certaine conception qu'on aurait du bien, il faut partir de la morale telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle est pratiquée et vécue, hein, parce qu'on ne peut pas partir, en fait, d'une définition, bon, on dirait justifiée, mais du bien, comme ça. Et pourquoi on ne peut pas le faire? Mais, un peu compliqué, mais enfin, c'est pas compliqué, mais le problème, c'est que si on part d'une définition du bien, hein, à laquelle on va essayer de référer la conduite des hommes, quoi. Le problème, c'est de savoir comment les hommes vont se rapporter à ce bien, ou à cette moralité, à cette loi morale. Sur quel mode ils vont s'y rapporter. C'est-à-dire, quel va être le type de relation qu'ils vont avoir avec cette loi morale. Bon. Si la loi morale n'est pas en eux, hein, si la moralité n'est pas inscrite d'abord en eux, cette loi morale va être en somme extérieure, et ils vont s'y rapporter en se fondant soit sur leur corps, hein, soit sur leur raison. Et donc ça va relever soit d'un intérêt, c'est-à-dire recherche du plaisir, hein, soit, mais c'est la même chose au fond, soit un calcul rationnel, quoi. Peut-être justement pour satisfaire ce corps, quoi. C'est-à-dire que, quoi bien que tant qu'on en reste à une loi morale qui ne serait pas inscrite au cœur même de la raison, au cœur même de chacun des individus, chacun des êtres rationnels, la relation qu'on va avoir à la loi morale va être une relation d'extériorité, qui sera fondée sur le calcul, sur l'intérêt. Et dès lors qu'on est dans du calcul et de l'intérêt, on peut dire, bah, ça y est, il n'y a déjà plus de morale, c'est fini. Si on est dans une morale de l'intérêt, ça y est, on a déjà perdu la morale. Voilà, si on est simplement dans un calcul, bah, y est. C'est ce qui nous détermine fondamentalement dans notre rapport au bien, au sens moral, bah, c'est simplement un calcul, bah, y est. C'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de la morale. Voilà. Bon. Alors, ce qu'il faut bien essayer de repérer, c'est comment comprendre et comment cette moralité trouve son fondement au cœur de notre subjectivité. Comme ça. Au cœur de ce qui nous fait chacun, ce qui fait chacun de nous un être rationnel, un sujet humain, quoi. Alors, bon, la démarche de Kant à partir de là, ça va bien consister à partir, si vous voulez, du fait moral, tel qu'il se présente, si je puis dire, mais pour chercher ensuite à régresser vers les fondements rationnels et universels de la moralité. Le fait moral, il est divers, tout ça, c'est vrai, mais en même temps, l'idée que tous les hommes, quand ils estiment être dans quelque chose qui est de la morale, engage une problématique qui est celle de la justice, quand ils ont affaire à du devoir, eh ben, tous les hommes, au fond, s'appuient sur un certain nombre de fondements, pas toujours explicités, mais des fondements qui sont les mêmes pour tous les hommes. Doivent être les mêmes. Voilà. Donc il s'agit de dégager les conditions de possibilité de toute morale possible. Ouais. Dès lors qu'on parle de morale, dès lors qu'on parle de devoir, quel que soit le contenu de ce devoir, qu'est-ce que ça suppose? C'est ça l'idée de Kant. Ce qui fait que Kant ne propose pas du tout une morale, il n'y a pas de morale kantienne, il ne propose pas une morale particulière, c'est pas ça qui l'intéresse. L'intérêt, c'est de dégager les conditions de possibilité de toute morale possible. Bon. À partir du moment où on aura pu dégager ces fondements nécessaires, qui sont des fondements rationnels, puisqu'il faut qu'ils soient universels, de toute morale possible, on pourra faire exercer une sorte de retour critique sur le contenu spécifique de telle ou telle morale particulière. Vous voyez l'idée ? Il y a peut-être des contenus moraux qui se revendiquent comme étant des contenus moraux. Par exemple, les hommes et les femmes ne sont pas des êtres égaux. Par exemple, hein. Il y a des morales qui incluent, par exemple, cette idée-là. Mais il se pourrait bien qu'en s'interrogeant sur ce qu'on veut dire implicitement, ouais, ou ce que ça suppose de pouvoir porter un jugement moral, ce que ça suppose rationnellement, et bien finalement, ce présupposé contredise la possibilité de dire que les hommes et les femmes sont des êtres inégaux. Oui. Bon. Alors, comme c'est un peu compliqué, j'ai envie de faire quelque chose de très simple, là. Qu'est-ce qu'il fait quand dans la morale qui est publiée en 1785, hein, les fondements de la métaphysique des mœurs. Il part d'abord d'une ce qu'il appelle une analytique C'est-à-dire simplement, il va analyser. Ouais. Tiens, comment éprouver, comment est vécu, est-ce que ça suppose conceptuellement d'agir moralement. Bon, alors, tu as envie de partir d'un cas de figure simplissime quand il en est bébête, mais ce qui m'intéresse, c'est d'interroger ce qui fait qu'on aurait des réponses assez, il me semble, spontanées, assez évidentes. Bon, par exemple, imaginons qu'on soit, je sais pas moi, dans une forêt, avec l'impossibilité d'avoir aucun recours possible. Il y a un pont. Il y a juste une seule personne en face de nous qu'on ne connaît pas, plutôt une personne âgée, qui s'appuie sur la rambarde, sur un pont donc. Ouais, la rambarde est vermoulue, elle tombe dans l'eau. Bon, c'est pas plus simple. Alors, on peut envisager varier imaginairement les situations possibles. Je ne sais pas, par exemple, il se trouve que je suis un excellent nageur, mettons, qu'il n'y a pas de courant, ça ne représente aucun danger de plonger, d'essayer de sauver cette personne. Bon, et je ne fais rien. C'est possible. Bon, mais évidemment, on se dit, oui, mais ce qui est sûr, c'est que tu devrais faire quelque chose. Quoi. Si tu fais rien, ben, tu en es responsable. Voilà comment. Bon, mais je peux aussi effectivement jeter à l'eau et faire quelque chose. Quoi. Essayer de sauver cette personne. On dira, voilà, il a agi conformément au devoir, quoi, très bien. Bon, on comprend tout ça. Mais qu'est-ce qu'on comprend en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend en fait que. On comprend en fait, par exemple, c'est que pour qu'il y ait de la moralité, il faut qu'il y ait de la liberté. Quoi. Par exemple, imaginons, je vais prendre des cas absurdes, mais imaginons qu'il y ait quand même deux personnes que je n'avais pas du tout vues, qui m'attrapent et qui veulent, si je puis dire, me forcer à faire mon devoir et qui me poussent dans l'eau comme ça. Pourquoi vraiment, il me menace et je suis obligé d'attraper la personne et la sauver comme ça. Bon. Je n'ai pas agi moralement, la chose paraît évidente à tout le monde. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait librement. Bon, voilà. Imaginons, je ne sais pas, au cas de figure, que la personne, au lieu d'être sauvée par moi, elle est sauvée par une branche d'arbre, je ne sais pas, qui s'est nouée à son pullover, enfin, de telle façon qu'elle a juste un peu attiré sur la branche d'arbre, ou à tel point qu'on pourra dire qu'elle était sauvée par cet arbre, sauvée par cette branche, enfin, on dira qu'il n'y a pas de moralité là-dedans. Tout le monde dira qu'il n'y a pas de moralité là-dedans. Il n'y a pas de moralité, pourquoi? Parce que la branche d'arbre n'a pas voulu. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est le fait du hasard. Bien qu'on suppose donc voilà la liberté au fondement de la moralité. Voilà, on pourrait décliner comme ça les cas de figure, hein, dire que par exemple si je me jette à l'eau et que je fais tout mon possible, mais que je ne parviens pas à sauver cette personne, je pense que tout le monde reconnaîtra que néanmoins mon action est morale. Bon, et pourtant la personne meurt. Bon, ce qu'il veut bien dire, c'est ce que dit Kant. Hein. Il dira, en ce cas, ben, on voit bien que la moralité ne tient pas dans le résultat. Elle tient dans ce qu'on dirait, nous, l'intention, il faudrait dire la volonté. Et c'est pour ça que la première phrase du premier chapitre du fondement de la métaphysique des mœurs de Kant, c'est « Seule une volonté peut être dite bonne, au sens moral ». Bon, l'histoire de la branche d'arbre nous montre aussi qu'il n'y a pas de moralité dans la nature. On pourrait développer. Hein. Il n'y a pas de moralité naturelle. La moralité, c'est pas naturel. Ouais. Bon. Et s'il n'y a pas de moralité dans la nature, il n'y en a peut-être pas dans ma nature. Dans ce qui fait ma naturalité, dans ma corporéité. Que ma liberté et que liberté en tant que porte ma moralité, c'est ma capacité à m'opposer aussi à mon corps. C'est sûr que si je dis oh, j'y peux rien, c'est mon corps ou c'est mon caractère, j'y peux rien. Oh, je suis grossier, mais c'est ma nature. Bon, bah, d'accord. Alors, à travers tout ça, je viens de dégager déjà quelques principes. À travers tout ça, ce qui apparaît, c'est l'expérience de quelque chose que je n'ai pas nommé, qui est l'expérience du devoir. Voilà. Il raconte. Hein. C'est vrai que je peux ne pas me jeter à l'eau. Tout à fait la possibilité. Mais ce que tout le monde pense, c'est que je dois savoir que je devais me jeter à l'eau. J'ai toujours la possibilité de transgresser hein, l'obligation morale qui m'est faite. Mais ce que je sais, c'est que j'ai ce devoir. Alors, pour Kant, qu'est-ce qui est injuste? Ce qui est injuste, c'est injuste même, je donne une citation de Kant, c'est injuste ne signifie rien d'autre ni de plus que cela contredit le devoir. Voilà. Donc nous faisons d'abord l'expérience de la justice à travers l'expérience du devoir. C'est quoi cette expérience? C'est que en fait nous faisons l'expérience particulière, mais l'expérience qu'il y a des choses que nous faisons parce que nous devons les faire absolument. Voilà. Pourquoi soumettre hein, cet appel du devoir, en somme, cette obligation, mais par devoir. Par devoir. Voilà ce que dit Kant. Parce qu'à partir du moment où je fais les choses, non pas par devoir, mais pour une toute autre raison, dans ce cas-là, je ne suis plus dans la morale. Si par exemple, je suis un commerçant, en exemple de Kant, je suis un commerçant et que par exemple, je n'augmente pas trop mes prix, je fais des prix assez bas. Parce que je pense que ça va se vendre beaucoup mieux mes produits. Pas exactement son exemple. Mes produits vont se vendre beaucoup mieux hein, en étant assez bas. C'est bien en plus, je permets à une population peut-être pas trop fortunée de pouvoir acheter mes produits, tout ça. C'est bien, c'est conforme, ça pourrait être conforme à une certaine exigence du devoir, surtout si je suis en position dominante. Mais en fait, moi, je le fais par calcul, je ne le dis pas par devoir. Voilà. Dès que je suis dans du calcul, dès que je suis dans l'intérêt, allez, je ne suis plus dans du devoir. Alors, qu'est-ce que le devoir, du coup, si on en cherche une définition rationnelle ? Qui, de ce fait, puisse avoir une valeur universelle. Bon, il me semble ici qu'il faudrait d'abord distinguer clairement la notion de devoir, d'obligation aussi, d'obligation morale, et les notions de contrainte et de nécessité. Voilà. Le devoir, l'obligation, la contrainte, la nécessité. Alors, pourquoi ? Bon. Parce que, bon, il y a nécessité simplement quand il y a enchaînement hein, de causes et d'effets. C'est le cas, je ne sais pas, par exemple, si je porte de l'eau à 100 degrés, sous certaines conditions de pression. Bon, ben, si je porte de l'eau à 100 degrés, il est nécessaire qu'elle boue, elle n'a pas le choix. C'est une loi de la nature. Je peux essayer d'en rendre compte scientifiquement, justement, en formulant des lois. Nécessité naturelle. Mais l'eau, elle n'est pas contrainte à bouillir. Le terme de contrainte ne va pas. Pas contrainte, tu n'as pas la possibilité de faire autre chose. Enfin, ouais. Par contre, je peux contraindre certainement un animal. Certains animaux, je peux les contraindre. Ouais. Il y a une impulsion hein, à aller, je ne sais pas, vers tel endroit, je peux contraindre à faire autre chose. Je peux contraindre un être vivant. Certains êtres vivants, je peux les contraindre. Je peux contraindre un homme. Je peux contraindre l'exercice de sa liberté. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait la possibilité qu'il fasse autre chose. Mais la contrainte, justement, contredit ma liberté. Elle la nie. Alors qu'à l'inverse, on ne peut jamais être contraint à faire son devoir. Je ne dois pas par contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation morale qui puisse se fonder sur la force. Si je prends par exemple un exemple d'engagement moral, la promesse. Si on me force à promettre quelque chose, je peux prononcer les mots, oui, je promets que. Mais à partir du moment où cette contrainte, où cette force ne s'applique plus à moi, que je ne suis plus menacé. C'est clair que je ne suis pas engagé du tout, je ne suis pas engagé par ma promesse. Quoi. Une promesse n'a de valeur que si elle est libre. Donc un engagement moral que je vais faire par devoir, suppose, je l'ai vu tout à l'heure, au fond, la liberté. Voilà. Peut-être un paradoxe, ça va paraître comme un paradoxe. C'est-à-dire que on est libre et soumis au devoir. Et même, en fait, il n'y a qu'un être libre qui puisse être obligé moralement. Il n'y a qu'un être libre qui puisse avoir des devoirs. Alors, mais de quoi, à partir de là, le devoir est-il le devoir ? Que suis-je obligé de faire ? Bon. J'indique là, c'est quand même, là j'ai suivi la voie de Kant. Qu'est-ce qui dégage Kant ? C'est quand même un concept très particulier, c'est le concept d'une liberté obligée. Ah oui, mais il y a d'obligation que parce qu'il y a de la liberté. Liberté obligée. Mais c'est pas contradictoire. Bon, alors de quoi le devoir est le devoir ? Le devoir, je reprends une formule de Kant, ainsi. Le devoir, c'est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi, dit Kant. Accomplir une action par respect pour la loi. Le devoir, c'est l'expérience par laquelle je fais, c'est pour moi la façon dont je me rapporte, si je puis dire, à la loi morale. Donc je dois agir en tenant compte absolument de la loi morale, par pur respect de la loi morale. Cette loi, je ne l'invente pas. Je ne peux pas l'inventer, sinon elle serait soumise à mon arbitraire. Aussi. Ce serait un calcul, ce serait produit de ma raison. Dans ce cas-là, ce serait un calcul. Cette loi, elle m'est donnée. Il faut qu'elle soit donnée. Donc j'en fais l'expérience comme d'un don. Je n'invente pas les devoirs. Je n'invente pas la forme du devoir. Je suis en sens soumis à cette dimension du devoir. Je suis obligé en tant que libre. Alors, mais pourquoi cette loi, hein, comme ça, là, pourquoi elle se manifeste à moi, à ma liberté, sous la forme du devoir? Devoir, ça dit bien que je n'agis pas spontanément. Dieu, par exemple, par hypothèse, qui est nécessairement bon, n'a pas de devoir. Il veut nécessairement ce qui est bon. Il n'a pas de devoir. S'il y a du devoir, c'est pas parce qu'il y a la contrainte, on a vu. Mais il y a bien une forme de contrariété, quand même. Je ne suis pas spontanément bon. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas ma nature. C'est pas. Kant, ici, n'est pas dans un problème chrétien. C'est pas qu'on aurait une nature pécative, marquée par le péché. C'est pas que ma nature est mauvaise. C'est pas ma nature pour une raison simple, c'est qu'on a vu que il n'y a qu'un être libre, il n'y a que la liberté qui est concernée, j'ai envie de dire. Hein. En premier chef par la question de la moralité et du devoir, c'est pas ma nature. Bon, s'il y a du devoir, c'est parce que j'ai aussi une certaine disposition au mal. Ce n'est pas une disposition naturelle, c'est une disposition inscrite dans ma liberté. Alors, ma nature étant à satisfaire, elle est régie par une logique du plaisir, de l'affection, du sentiment. Et l'obligation morale contredit bien souvent le plaisir. Bon, mais les sentiments ne constituent pas des arguments pour la morale. Mais... Oui, ce que je veux dire là, c'est que donc c'est pas ma nature qui est coupable. Excusez-moi, j'ai un peu. Simplement, en moi, j'éprouve, hein, la dimension d'une loi qui est adressée à ma liberté, et cette loi, elle m'est adressée comment? Pour Kant, comme impératif catégorique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impératif catégorique, c'est la loi. C'est Kant. C'est la loi. L'impératif catégorique, ça dit quoi? Ça dit, je dois, parce que je dois catégoriquement, sans condition. C'est-à-dire que l'action est elle-même sa propre fin. J'y reviendrai, hein, quand dégage plusieurs formules, trois formules de l'impératif catégorique. De la loi morale, en somme. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse valoir comme une loi universelle de la nature, par exemple. J'y reviendrai après, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a impératif catégorique, c'est justement parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des impératifs hypothétiques, c'est-à-dire, si vous voulez, des impératifs techniques. Je dois parce que je dois, ça c'est l'impératif catégorique, alors que dans l'impératif hypothétique ou technique, je dois si je veux obtenir telle chose. Je dois sous condition. Là c'est un impératif technique. Ouais. Si tu veux obtenir, si tu veux obtenir tel cadeau à Noël, eh ben travaille bien à l'école. Impératif technique. C'est-à-dire que l'action ici, elle est prescrite simplement comme un moyen pour une fin. Alors que dans l'impératif moral, l'action, elle est prescrite pour elle-même. Agis parce que tu dois agir. C'est pas même le résultat. Ce qu'on voyait déjà avec l'exemple très simple de « je fais tout mon possible, hein, néanmoins la personne qui est dans l'eau n'est pas sauvée, mon action est morale. » C'est pas le résultat qui est moral, c'est la volonté. Donc, je ne peux pas ignorer la loi. Aucun sujet humain, du coup, on est obligé de qu'on vient dire ça. Aucun sujet humain ne peut ignorer la loi. Par contre, on peut toujours la transgresser. Pour Kant, on ne peut pas être hors la loi. On ne peut pas être hors la loi, par contre, on peut transgresser la loi, ça c'est sûr. C'est-à-dire faire le mal. Quoi. Alors, qu'est-ce que faire le mal ? J'essaie de revenir. Alors, que commande l'impératif catégorique ? Je vais faire un petit peu ça. L'impératif catégorique, qu'est-ce que c'est que ça ? L'impératif catégorique, ce qui me commande, il fait loi pour moi. Hein ? Subjectivement, il fait loi pour moi. Ce qu'il me commande, c'est un commandement. Il commande à ma raison. Il commande à ma liberté. Ce qu'il commande, d'abord, c'est d'agir en fonction d'un principe de cohérence universelle. Premier principe que dégage Kant. C'est condition de possibilité de la moralité. Premier principe. Un principe de cohérence universelle de mon action. De mon action morale. Alors, la formulation qui correspondrait à ce principe de cohérence universelle de mon action morale, c'est ce que je disais, agit comme si le maxime de ton action devait être érigé par ta volonté en loi universelle de la nature. Bon. Qu'est-ce qui nous commande l'impératif chez Kant ? Pour Kant, l'impératif nous commande de faire la loi. Mais faire de la loi, pas faire la loi au sens de « je fais ce que je veux ». Parce que je fais ce que je veux, justement, ça ne peut pas faire loi. Ça met simplement en avant mes petits désirs particuliers. Mais ça, ce n'est pas de la loi. Faire la loi, ça veut dire faire l'universel. Faire quelque chose qui puisse avoir la forme d'une loi. Donc qui puisse valoir universellement. Agis. De telle sorte que la maxime de ton action, c'est-à-dire les raisons que je vais avancer, intérieurement, par exemple, pour agir, eh bien, que c'est la maxime de mon action, je puisse l'universaliser. Bon, je sais pas, on peut prendre un exemple. Par exemple, imaginons un cas de figure que j'ai imaginé tout à l'heure. Si je m'étais dit, je suis un très bon nageur, mais il y a des risques. Même pas très importants, mais il y a quand même des risques. Il y a un peu de courant. Bon, en ce cas-là, je fais rien. Je ne vais pas prendre de risques. Bon. Voilà les raisons que je me suis tenu, que je me suis donné. Voilà la maxime de mon action. Est-ce que cette maxime, la maxime de cette action-là, est-ce que je peux l'universaliser ? Ça donnerait... ta responsabilité morale n'est pas engagée si pour toi le fait d'agir comporte des risques. Ouais, si je transforme ça en la formule, ce qui a réglé mon action, là, si je transforme ça en loi, ça en termes de loi. Bon, ben c'est une loi qui est intenable. De même, il y a eu un débat, c'est fameux, entre Kant et Benjamin Constant, Benjamin Constant s'opposant à Kant, puisque Benjamin Constant prônait un droit de mentir, l'idée qu'il devait y avoir un droit de mentir. On doit mentir parfois par humanité, etc. Et Kant s'est toujours opposé à cette idée-là. On ne peut pas parler d'un droit de mentir. Pourquoi on peut pas parler d'un droit de mentir ? C'est en fonction, justement, de ce principe de cohérence universelle de mon action morale. Il ne peut pas y avoir un droit de mentir parce que si je m'accorde un droit de mentir, si j'énonce le mensonge comme finalement pouvant constituer un devoir, En fait, j'abolis la possibilité de parler, tout simplement. Puisque ça veut dire que si je peux mentir par humanité, que ça peut être un devoir, ça veut dire que je reconnais à tous les hommes le fait qu'ils doivent ne pas dire la vérité. Je reconnais à tous les hommes le fait que ne pas me dire la vérité. Oui. L'énonce même comme un devoir. C'est-à-dire finalement, ce que je suis en train d'énoncer, c'est une sorte de devoir de se défier absolument de la parole de tout homme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de nier, c'est la dimension même du langage. Voilà. Parler, ça implique immédiatement la dimension de la vérité, même de la véracité, toute une véracité, le fait de dire ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire les arguments platoniciens, enfin simples. Pas si le sophiste dit la vérité n'existe pas. Résume l'argument socratique, enfin, c'est dire. Ah bon, donc tu affirmes que la vérité n'existe pas, c'est ça que tu veux dire. Si tu affirmes que la vérité n'existe pas, ce que tu veux dire, c'est que il est vrai que la vérité n'existe pas. On ne peut pas affirmer que la vérité n'existe pas. Il y a de la vérité, on peut le prouver. Ce qu'elle est, c'est compliqué. Qui est de la vérité, ça, c'est nécessaire. Dès que je parle, je suppose la dimension de la vérité. Donc si j'énonçais un droit de mentir, ouais, j'entrerais en contradiction avec ce qu'est le langage, quoi, qui me fait humain. Je ferais un devoir de ne pas dire la vérité. J'installerais une sorte de perversion au cœur même de la possibilité même de parler, quoi, pour tout homme. Idée de Kant. Alors, il y a un deuxième principe, qui est donné à une deuxième formulation. Ce deuxième principe, c'est le principe de l'égale dignité de la personne humaine. Bon. Et donc, la formulation proposée par Kant, c'est « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin ». Et jamais simplement comme un moyen. Bon, ce qui veut dire, c'est que, bien sûr, on a des relations entre nous, qui sont des relations instrumentales à certains égards. Le boulanger me rend un service, un moyen pour moi de manger du bon pain, moi je le paye, c'est le permis de vivre, tout ça. Mais si je considère mon boulanger simplement comme un moyen, là, je transgresse. Là, je suis du côté du mal. Je transgresse le devoir. Je transgresse ce qui fait mon devoir. Il faut toujours que je considère mon boulanger, par exemple, et toute autre personne humaine, comme ayant une égale dignité, comme étant une fin en soi. Pas simplement comme un moyen, mais comme une fin, absolument. Comme le but absolument de mes actions. Bon. Alors, il y a un rapport avec le premier principe. C'est que le principe de la cohérence universelle, finalement, il engage qui ? Il engage tous les êtres dotés de raison, tous les êtres raisonnables, rationnels. Et en tant qu'ils sont rationnels, nécessairement, ils sont soumis, entre guillemets, à l'impératif catégorique, la question, à l'exigence morale. Et de fait, ils ont une égale dignité, en ce cas, en tant que sujet moraux. Égale dignité de la personne humaine, donc. Bon, par exemple, ce que permettrait de dire, voilà. Voilà un critère, une condition de possibilité de la moralité qui nous permet de faire retour sur un certain contenu moral. Et là, ça permet de dire que, effectivement, les femmes doivent être traitées de la même façon que les hommes. Ça vérifie que les femmes sont dotées de raison, sont des êtres rationnels, tout en tant qu'un homme. Voilà. Bon. Et puis, du coup, troisième formulation. Troisième formulation qui est faite en fonction du principe d'autonomie. Principe d'autonomie. Agis de telle sorte que ta volonté puisse se considérer elle-même en même temps comme légiférant universellement grâce à sa maxime. Agis de telle sorte que ta volonté puisse se considérer elle-même comme légiférant universellement grâce à sa maxime. C'est-à-dire finalement que chaque homme doit pouvoir se considérer comme l'auteur de la loi morale. Ce qu'on a vu finalement. La loi ne lui tombe pas, elle lui tombe pas dessus comme une contrainte. Il y a toujours la possibilité de la contredire, de la transgresser. Il est libre. C'est ça le principe d'autonomie, premièrement. C'est l'affirmation de sa liberté. Deuxièmement, c'est l'affirmation du fait qu'il a à faire la loi. C'est agir. Fait la loi. Voilà. C'est agir universellement. Hein. Principe d'autonomie. Tu es producteur de la loi, quoi. Pas en tant que particulier, en tant qu'être rationnel. Hein. Donc, qu'affirme ce principe d'autonomie, c'est le principe de la liberté, d'une liberté qui est législatrice. Et puis, troisièmement, c'est le principe de la responsabilité individuelle. Que ta volonté puisse se considérer elle-même comme légiférant universellement. Bon, alors, ce petit parcours-là, ce qui nous amène à dégager, il me semble, c'est un statut de la raison très particulier. Une raison qui est enjointe, une raison obligée. Ce qui fait la loi de la raison en tant qu'elle a à faire moralement, la raison pratique en tant qu'elle a à agir, c'est une raison qui est obligée. Alors, on peut dire que ce qui est en jeu là, c'est une raison, à laquelle lui est adressé quelque chose en sens du dehors, agit. C'est pas la raison qui produit ça. C'était la raison qui le produisait, parce qu'elle entrait dans le calcul, encore une fois. Ça ne ferait pas loi pour nous, pour cette raison. L'impératif s'adresse à la raison, en un sens, une sorte de dehors de la raison, mais en même temps du plus intime de la raison. C'est ce qui fait loi pour la raison, justement. Voilà, on est sur un bord de la raison. Alors, cette espèce de statut très particulier de la raison pratique, qui fait que se dégage en elle une forme d'excès, d'écart en elle-même, à elle-même, puisque c'est une raison obligée, et qu'elle n'est pas productrice de cette obligation. Si elle était productrice de cette obligation, encore une fois, elle ne serait pas obligée. Elle ferait ce qu'elle voudrait, quoi. Eh bien, ce motif-là, il se retrouve dans une distinction qu'on a traversée aussi, que Kant formule en disant qu'il faut bien distinguer agir par devoir et agir conformément au devoir. agir par devoir et agir conformément au devoir. Bon. On comprend bien, c'est pas du tout la même chose. Bon, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un écart entre l'esprit, si je puis dire, de la loi et la lettre de la loi, ou la lettre du devoir. Agir moralement simplement en se conformant à ce qu'il faudrait faire, c'est pas agir moralement, ça. Ouais. Le faire simplement par conformisme, ouais. Par intérêt. Voilà. Ça, c'est pas la morale. Il y a un écart entre la lettre du devoir et, on peut dire, l'esprit du devoir. Ouais. Et l'écart, justement, qui se retrouve là-dedans, c'est bien la question de cet écart au cœur de la raison, et qui est l'écart d'une raison obligée. D'une raison pour qui elle a la loi, d'une loi dont elle ne décide pas. D'une loi qu'elle a à faire, justement. Et ce qu'elle a à faire, c'est agir rationnellement, hein. C'est ça, faire la loi, agir rationnellement. Bon. Alors cet écart, hein, ce qu'il engage, c'est bien certains problèmes, certaines problématiques de la langue. C'est là que je reviens sur mon point de départ. Bon, déjà on peut repérer que l'impératif catégorique, hein, un impératif, ça ne peut être qu'énoncé. C'est dans la dimension langagière qu'il peut y avoir de l'impératif. C'est pas le cas pour de l'ordre, par exemple. Hein. On peut très bien donner un ordre à un chien. Hein. On n'a pas besoin du langage. Par contre, il y a de l'impératif que dans la dimension du langage. Mais en même temps, l'impératif intervient sur une sorte, hein, puisque c'est une injonction, hein, qui est faite à notre raison, sur une sorte de bord, encore une fois. Ouais. Bon, il y a ce motif de l'écart dans la raison. Hein, écart à la raison, dans la raison. Bon, c'est par exemple ce qu'on retrouve, hein, par exemple, dans l'expérience qu'on fait de la politesse. Enfin, c'est comme ça, une analyse comme ça qu'on pourrait proposer. Qu'est-ce qu'être poli, finalement? Qu'est-ce qu'être poli? C'est pas se conformer purement et simplement aux règles de la politesse. Si on se conforme simplement à des règles, purement et simplement, enfin, on sait ce qu'on dit, c'est formel, voire trop poli pour être honnête. Voilà. Si j'applique strictement et à la lettre les règles de la politesse, je ne suis pas poli. Si j'applique aucune règle, si je me sens tenu par rien, et puis se formuler, se dire, c'est bien, hein, cette espèce de prétention à sortir de toute convenance, on sait bien ce que ça donne. C'est la vulgarité. C'est la nature. La grossièreté, quoi. Qu'est-ce qu'être poli, finalement? Très curieux, être poli. C'est toujours inventer quelque chose. C'est jouer avec les règles. C'est toujours inventer quelque chose dans les signes, voire dans la langue. Je vais utiliser une règle, mais je vais un tout petit peu la déplacer. Un tout petit peu. Je vais, par mon regard, par mon geste, faire qu'il y ait quelque chose, un tout petit événement, mais un tout petit événement qui fasse que je manifeste que je suis engagé singulièrement, moi, dans cet acte de politesse. Quoi. Et que je ne fais pas simplement que me conformer à une règle. Oui. C'est toutes ces petites choses qu'on fait, tous, souvent, qui font que je vais me marquer d'une légère intonation, je vais faire une variante dans la formule, je vais avoir un geste, qui va faire varier, ouais, la règle. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a deux règles de politesse que dans la transgression de la règle. Ouais. Il faut inventer toujours quelque chose dans la politesse, sinon on n'est pas poli. Et pas une invention qui serait purement ailleurs, qui ne tiendrait pas compte de la règle. Ouais. inventé avec la règle, dans la règle. C'est ça, Pauline. Bon. Eh bien, cet écart hein, entre l'esprit et la lettre, enfin, qui est une vieille histoire, mais. Il me semble que ça intéresse peut-être l'écriture et la littérature, justement. C'est comme ça assez frappant que la littérature soit engage assurément quelque chose du sens, quelque chose de la vérité, et qu'en même temps, la littérature s'engage dans une langue qui est toujours singulière. C'est jamais justement une langue réglée et purement réglée, parce que là on n'est pas dans la littérature, mais dans le langage technique. La littérature, c'est justement cette façon de travailler le sens en faisant se déplacer la langue, de sorte que quelque chose de nouveau s'invente dans la langue et produise une langue nouvelle. Et il me semble ouais, qu'on retrouve un motif qui est celui qui a, dans la pratique de la politesse ordinairement, et peut-être cette question justement de l'impératif catégorique, ouais, qui enjoint la raison, donc bien d'une sorte de dehors, ouais, à agir, hein, à faire la loi, hein, à faire loi. Et en même temps, il ne s'agit jamais simplement de se conformer à la lettre du devoir. Voilà. Là, pour aujourd'hui, je voulais aller jusque-là, au moins. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair.
Alors, moi, j'ai fait une petite part du nez. J'ai dit qu'il faisait froid. Il faisait froid. J'avais annoncé. Donc, j'ai usé raisonnablement de ma liberté pour aller faire du thé. Je vais discuter sur Lyon.
Concernant le langage technique et théosophique, disons, c'est vraiment différence frappante. C'est pas étonnant à la limite qu'on peut comprendre. Comprendre le langage de Kant parce qu'il est aux sources de la philosophie, finalement. Mais c'est très étonnant qu'on peut comprendre assez facilement le langage de philosophe moderne. Et on ne peut pas comprendre le langage de mathématiciens et chimistes, etc. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de progrès dans la philosophie. Zéro, en quelque sorte. La complexité du langage, c'est la mesure, et le nombre de termes spécifiques au langage. On peut mesurer le progrès dans une discipline par le nombre de par le volume de terminologie. Ou, autrefois, non, ce n'est pas exact. Par écart de leur terminologie à notre langage du genre commun de mortel. Et donc, parce que les sciences naturelles de nature ont créé effectivement un volume de connaissances énorme. Et donc, pour les décrire, ils ont créé un vocabulaire énorme. Tellement énorme qu'on ne comprend plus rien là-dedans. C'est la perte de spécialistes. Mais la philosophie, d'ailleurs comme sociologie, autogène, on peut lire ça assez facilement Weber, n'importe qui, des sociologues et des philosophes modernes. Ça veut dire que là, il n'y a qu'un progrès gros. Bien sûr que ce n'est pas ça. Il y a quand même progrès, mais vraiment minable par rapport aux sciences de nature. Pour la simple raison. Eux, ils pouvaient faire expériment, ils pouvaient vérifier ces hypothèses, ils pouvaient vérifier ces idées, les physiciens, etc. Mais le sociologue ne peut pas faire des expériments. Donc n'importe qui peut raconter n'importe quoi. C'est que se continue
Bon, là, ça me semble un peu intenable, là, hein? Un peu intenable, c'est-à-dire que je ne sais pas d'ailleurs comment répondre à ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, finalement, c'est que la philosophie, mais je crois d'ailleurs dans ce que vous dites, on pourrait dire, donc aussi toutes les sciences humaines, si je comprends bien. Hein. Parce qu'un livre d'histoire aussi, hein, ça se lit assez aisément, hein, on peut lire Brodel assez aisément. Bon, tout ça, ça produit aucun sens. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Peut-être qu'il faut lire en ce cas-là. Et faire l'épreuve, s'éprouver au texte et aux vérités qui s'y énoncent. Mais après, si vous voulez, ce que vous dites, pour dire les choses clairement, est faux. Bah, si vous voulez qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de production de connaissances en philosophie ou dans les sciences humaines, c'est complètement... Bah, c'est faux. Je ne vois pas bien ce qui vous permet de dire ça.
On mesure justement par langage. C'est une chose, quelque chose d'objectif. Il y a une certaine parenthèse. Il y a des groupuscules scientifiques qui effectivement invitent son langage spécifique, hermétique. Et là, on ne peut pas parler plus rien. Mais le truc, c'est son langage, leur langage, mort avec le groupe, sans aucun drame pour l'humanité. Voilà. Autrement dit, à part de cette exception-là, on peut presque tout comprendre. Ou au moins, en consultant un spécialiste, au bout de quelques semaines, on comprend tout. Mais pour apprendre les mathématiques actuelles, bah, il faut plusieurs années d'études assez...
Et par exemple, ce que vous dites là, vous voyez que vous dites en langage commun, dans la langue commune, enfin, c'est vrai ou c'est faux? Ce que vous dites là, vous voyez, vous parlez pas comme un spécialiste là. Ce que vous dites là, vous n'êtes pas en train de parler en langage mathématique. Ce que vous êtes en train d'énoncer là, ce que vous êtes en train de dire finalement, qui pourrait être décisif, en un sens, ouais, c'est un jugement vraiment sur tout un tas de savoirs. Bon, vous voyez bien que vous êtes en train de le formuler dans la langue commune. Bon, alors c'est vrai ou c'est faux? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que là, vous êtes en train de dénoncer un certain nombre de choses qui prétendent être des vérités générales, qui seraient décisives pour s'orienter à l'intérieur des savoirs, et vous êtes bien en train de vous adresser à nous tous, qui ne sommes pas des spécialistes de telle ou telle, ouais, discipline, enfin, vous voyez, a priori, peut-être nous le sommes, enfin. Et tous, on est censé vous comprendre, d'ailleurs tous on vous comprend, tous on peut discuter ce que vous dites. Et pourtant, ouais, ce lieu d'où vous parlez, qui est un lieu de décision, là, ouais, d'orientation décisive dans la pensée, ouais, c'est bien dans la langue commune.
Attendez,
vous voyez ce que je veux dire?
On risque de pas être... Moi, je voulais dire des choses au début.
Oui.
Je ne vais pas être longue.
Allez-y.
Il m'a semblé déflécher chez vous une contradiction et vous expliquer comment. Vous avez commencé par dire les sciences n'utilisent pas vraiment le langage, tandis que la philosophie et la littérature, ça parle la langue de tout le monde. Mais bon.
La langue commune, oui.
Je veux dire, je faisais la partie avec Laurent tout à l'heure. En géométrie, à partir du moment où on a défini ce qu'était un point, une droite, une distance, une parallèle, une perpendiculaire, je peux vous faire tout le programme du secondaire avec un papier et un crayon, et tout le monde comprendra. Et quelque part, quand vous avez démarré en parlant, en réexpliquant, en montrant, en définissant par la morale ou la raison, vous avez fait à peu près ce que fait le bon prof de maths et de son personnage, que tu commences à enseigner la géométrie. Définir quelques objets ou quelques concepts. toi-même. Donc, quelque part, au début, vous disiez, je n'étais pas d'accord, mais juste quand même pour faire l'image. Et finalement, je trouve qu'on peut avoir, on a une construction rationnelle, compréhensible par tout le monde, et puis on peut aller assez loin.
Non, mais je suis à la fois d'accord avec vous et pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que bon, qu'on puisse vous suivre, parce que les mathématiques, c'est absolument justement rationnel et que ça peut être suivi par tout être rationnel. D'autant quand c'est quand cet enseignement est dispensé par un excellent professeur. Donc, je ne dis pas que. Bon, mais. J'en doute pas, c'est pas ça que je conteste, hein. Ça c'est sûr. Ouais. Bien sûr, tout le monde, s'il commence par le début, peut faire des mathématiques. Ça, j'ai pas dit le contraire. Hein. Mais il me semble que quand même, assez vite, au total, si en mathématiques on reprend pas depuis le début, on est quand même assez vite perdu et assez vite confronté au fait que on est dans des termes qui ne sont pas les termes de la langue commune. Vous voyez ? Alors que prenez un livre, je ne sais pas moi, si je prends la littérature, c'est plus simple, mais prenez un livre de Victor Hugo, c'est un sommet. Vous voyez ? On n'est pas là à mettre en place les axiomes de Quinze. Hein. Bon. Si vous prenez un livre de Victor Hugo qui est un sommet dans la littérature, vous pouvez le lire. À 10 ans, vous pouvez le lire. En entier. Tout. Hein? Ah, alors là, c'est... Non, mais je croyais qu'en fait, vous alliez me faire deux... C'était une autre remarque, je pensais que vous alliez me dire, mais quand même, dans les sciences, on utilise quand même la langue commune, elle n'est jamais complètement absente. Soit, alors par mathématiques, vous avez des énoncés qui sont... Voilà. Mais c'est pas sur le problème de la clarté, hein. Je ne conteste pas du tout, évidemment, que la clarté en mathématiques, c'est pas ça. Hein. Non, mais il me semble, si vous voulez, qu'il y a un reste, qu'il y a un rapport maintenu, quand même, dans les sciences à la langue commune. Qu'on n'invente pas purement et simplement, en coupant à un moment les amarres, une pure langue de termes. Donc, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, hein, s'il s'agit de dire que les mathématiques sont absolument compréhensibles et par un être rationnel, à partir du moment où on commence bien, on a bien les bases, tout ça, je suis absolument d'accord avec vous. Simplement, ce que je dis, c'est que plus on s'enfonce en mathématiques, plus on travaille, on réfléchit, mais ça va assez vite, et ben, plus quand même on va tendre à s'écarter de l'usage commun de la langue. Alors, ce qui est particulier en philosophie, et je ne veux pas dire par là que toutes les choses sont compréhensibles immédiatement, parce que sinon ce ne serait pas la peine de faire la philosophie, mais c'est que quand même c'est frappant qu'on reste, vous voyez, en philosophie, on reste dans l'élément de la langue commune. Voilà. C'est...
J'aurais une objection par l'autre bout, c'est que quand même la philosophie, beaucoup la définissent comme une machinerie à élaborer et à construire des concepts. Alors ces concepts, on va leur mettre des mots qui dans certains cas peuvent être des mots de la langue commune, mais enfin sont quand même des concepts et demandent un immense travail d'élaboration et de compréhension pour les faire fonctionner. Et de faire alors du dictionnaire européen, du dictionnaire de philosophie européenne, où justement il s'agit de montrer pourquoi et comment des mots d'une langue donnée sont quasiment infamisibles. Pourquoi est-ce que par exemple le Dasein, on le garde en allemand, tellement on n'arrive pas vraiment à le traduire en d'autres langues, ça montre bien que c'est un mot de la langue allemande, mais enfin c'est un mot qui est tellement chargé de toute la somme des réflexions qu'il y a dessus. On a du mal à dire que c'est la langue commune, donc je suis quand même surpris et chez Kant, c'est des histoires de fait, je ne me souviens jamais, mais enfin, ce qu'il appelle intuition, donc du moins ce qu'on traduit en français par intuition, ça n'a rien à voir avec l'entendement commun du mot intuition, donc je suis quand même surpris que vous de vouloir dépouiller comme ça de toute technicité le discours philosophique. Pour moi, est très opaque parce que justement chargé d'une pensée, d'une réflexion, d'une élaboration, une somme de progrès, etc. Oui.
Bon,
Non, mais c'est sûr que la philosophie réfléchit la langue. Hein, réfléchit la langue. Ce qui fait qu'effectivement, un terme, par exemple, Dasein, qui a un usage commun en allemand, quand c'est chez Heidegger, bon, ça devient autre chose. Enfin, c'est pas, bon, ça c'est sûr. Bon, on pourrait prendre tous les termes. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est vrai aussi d'ailleurs en littérature. C'est-à-dire que c'est aussi un déplacement dans le sens des mots qui est produit en littérature. J'ai envie de vous répondre en fait par une espèce de comparaison, si vous voulez. C'est sur la question de la technique, la technicité de la philosophie. Comparaison avec la musique, pour le coup, là. Si vous voulez, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je trouve que Deleuze, c'était aussi une idée que développait Deleuze, ça me semble. Ça surgit d'un coup, là, même. Que. Bon, pour faire la philosophie, il faut travailler beaucoup, longtemps, tout ça. C'est sûr. En un sens, c'est très technique. C'est sûr. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais on peut recevoir quand même un discours philosophique sans être un spécialiste.
Absolument.
Et un discours très pointu en philosophie sans être un spécialiste. Et j'ai envie de dire, vous voyez, c'est comme en musique. Par exemple, vous voyez, pour faire ce qu'a fait Mozart, bon, il faut non seulement être un excellent technicien et un super spécialiste, mais enfin, il faut même être Mozart pour être spécialisé à ce point, en Mozart. Bon, mais par contre, tout le monde peut entendre Mozart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entendre là, hein? Je sais bien que c'est... Bon. Mais voyez, quand même, moi, je peux écouter, moi qui connais vraiment, ouais, je sais pas, je sais jouer de rien. J'ai fait un an de guitare, mais quand même, je peux écouter la flûte enchantée et la réécouter. C'est vrai qu'il y a un approfondissement. Et peut-être je peux lire, et je peux... Bon, voyez, ensuite, il y a aussi peut-être une certaine technique, d'ailleurs, une certaine technicité dont je peux essayer de m'informer, qui va peut-être me permettre d'entendre certaines choses encore plus. Mais même sans en passer par là, de toute façon, je peux quand même entendre Mozart, approfondir cette écoute. L'apprécier, le que ça me. Oui, et c'est bien un enjeu de sens, et je dirais un enjeu de vérité, sûrement. Voilà, oui, il me semble que Deleuze a un idée. Et néanmoins, vous voyez, moi je ne suis pas du tout un spécialiste. Voilà. Et je pense que en philosophie, il y a cette dimension-là. Et de même qu'en littérature. Voilà. Et c'est un peu, vous voyez, pour moi, il y a un peu une différence là avec cette. Avec certaines dimensions du discours scientifique.
Est-ce que je peux quand même répondre à votre question? Je n'ai pas compris. En principe, vous dites que vous utilisez la langue commun et en commun. Mais en quelque sorte, vous avez raison. Par exemple, la langue française contient probablement à peu près 100 000 mots et tout le monde, grosso modo, les comprend.
Si on... Oh, les 100 000, non. Vous savez, on parle avec, je ne sais plus, 500 mots, il me semble.
100 000 mots.
Oui, mais on les connaît pas.
Oui, mais on n'utilise pas. Grosso modo, disons 50 000 mots. Okay. Si on prend la mathématique, on n'est pas garanti qu'il y a de 50 000 termes. Peut-être pas du tout. Mais la différence, quand même, je parle de progrès. La mathématique du 19e siècle peut-être contenait assez peu de termes. Je ne sais pas, 1000 termes maintenant, il est énorme. Mais la langue française, il y a de l'époque de Kant, est moderne, aussi un peu progressée, mais pas énormément. Donc, le problème qu'on ne vit pas dans le monde mathématique, donc au début, on est presque au zéro, l'humanité. L'humanité a pris la mathématique et créé sa langue. Mais on vit dans le monde humain, dans la société, on est obligé de l'apprendre, cette langue. Le problème, c'est que cette langue qui décrit nous-mêmes, la société, n'évolue presque pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau. On n'invente plus de nouveau. On regarde sur nous comme Kant, presque comme avant. Le volume des
oui, c'est curieux vous disiez ça, parce que ça, il me semble que tout le monde fait l'expérience plutôt inverse.
le nouveau notion, les nouvelles idées ont besoin de nouveaux termes. Or, il n'y a pas de nouveaux termes, grosso modo. Bien sûr que ce n'est pas. Lorsqu'on lit, bien sûr, par exemple, Adam Smith ou n'importe qui, pour nous, beaucoup de choses sont naïves là-bas. Ça veut dire que notre connaissance de nous-mêmes, quand même, fait des progrès. C'est du génie, bien sûr. Mais maintenant, on est sous l'épaule des autres génies. Donc, il y a quand même progrès, je ne veux pas dire. Mais par rapport aux sciences de nature, minable.
Bon, mais juste. Moi, j'ai parlé des sciences formelles, hein, mathématiques, des sciences de la nature. Bon, il faudrait réfléchir. C'est assez frappant sur le fait que les sciences humaines, même si étant à développer une technicité plus importante, il me semble, bien sûr que la littérature, même que la philosophie, technicité en termes de terminologie, en tout cas. C'est quand même assez frappant qu'elles utilisent la langue commune beaucoup plus, quand même. Je dirais,
Il est obligé, parce qu'aucun philosophe n'est pas d'accord avec l'autre.
Non, mais c'est pas le problème, je veux dire, même là je parle des sciences humaines, mettons en histoire, vous voyez. Je vais pas être en inventé, il y a déjà eu des pensées là-dessus, mais.
Grosso modo, tous les mathématiciens sont d'accord avec eux. Donc il faut progresser parce qu'ils ont.
Voilà,
Ça me semble une vision un peu scolaire de la science.
Justement, sur la ligne du front, il y a des contradictions, mais derrière, il n'y a rien. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans la philosophie, citer Kant, c'est un bon ton, c'est bon. Si quelqu'un, maintenant physicien, cite Newton dans son article, les autres spécialistes se retournent, mais qu'est-ce que c'est?
C'est peut-être pas un problème de bon ton, c'est peut-être un problème, c'est peut-être qu'il y a un rapport différent dans les sciences à leur propre histoire que celui qu'on a en philosophie ou en littérature.
Parce que la physique avance rapidement. Dans le nouvel article, vous citez quelqu'un d'il y a 10 ans.
Mais là, on ne peut pas discuter, parce que si vous voulez, ce sur quoi là, vous voulez qu'on discute, c'est sur le fait qu'il n'y a rien à discuter de la philosophie. Vous voyez, donc ça devient difficile. Vous voyez le paradoxe. Vous vouliez dire quelque chose? Pardon? Ah, d'accord. Oui?
Tout à l'heure, j'avais cru comprendre la lettre du devoir, j'ai bien compris. Et je ne sais pas ce que c'est.
La lettre, c'est si je me mets à formuler un certain devoir. Vous voyez? Alors, par exemple. Je vais dire que, pour un commerçant, par exemple, qui est vraiment, en position dominante, mettons, dans un quartier, dans un quartier où les gens, en général, ne sont pas très riches, tout ça, il a un commerce, une épicerie, mettons, les gens sont obligés d'aller s'alimenter chez lui, il peut profiter de sa situation dominante. Il peut aussi, peut-être agir, on va dire, plus moralement. Et son devoir serait, en l'occurrence, en tout cas, de faire des prix pour le moins, de pas abuser, de pas abuser sa situation.
Et ça veut dire quoi concrètement la lettre?
La lettre, c'est la formulation. Ouais. La formulation, ce qui est écrit.
L'esprit de la loi.
Voilà.
Et la lettre, c'est exactement comment c'est écrit.
Voilà, comment c'est écrit, comment c'est formulé, comment c'est énoncé. J'ai trouvé une formulation. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des règles de politesse. Donc, on doit dire bonjour. On doit saluer quelqu'un quand on s'en va. Voilà, et utiliser un certain nombre de formules, bon, qui varient, tout ça, selon les pays, mais voilà. Bon. Vous voyez, là, je parle bien d'un certain nombre d'énoncés. Ouais. La façon dont on pourrait les écrire, quoi. Bon, ben, il faut faire ça, et en même temps, justement parce qu'il faut, il faut jouer avec cet énoncé, en somme. Ouais. On ne peut pas s'en tenir simplement qu'à cet énoncé. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire.
Oui. J'avais une question, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, et je voulais vous demander, quand on nous parle souvent, nous parlons beaucoup de la loi et de la morale. Alors, à partir du moment où il y a une certaine...
C'est quand on nous parle, c'est ça que vous avez dit, ou
il y a, à partir du moment où il y a une moralité, il y a un respect envers la loi.
Oui.
Mais de quelle loi on nous parle ici? Emmanuel Kant nous parle de quelle loi? Une loi universelle, ou une loi des dieux, ou une loi des hommes? Je ne sais pas trop. C'est la morale et la loi. À partir du moment où la loi... Peut-on dire aussi la morale? Qu'est-ce qu'il en est alors de la morale et de la loi?
Ah, mais vous voulez dire, par exemple, oui. Bien sûr qu'il peut y avoir des lois qui contredisent la moralité. Qui contredisent la moralité. Mais justement, ce que Kant essaie de dégager, là, ce sont des fondements universels de la moralité. Et donc la loi, effectivement, qu'il s'agit de faire... c'est une loi universelle. Hein. Mais si vous voulez, à la rigueur, pour Kant, c'est même... Enfin, si vous voulez, c'est la forme même de la loi qu'il exige. Hein. La légalité implique, au fond, l'universalité, sinon ça ne fait pas loi. Quoi. Mais là, si vous voulez, on n'est pas dans les lois telles qu'elles peuvent être instituées. C'est-à-dire, il y a une loi, voyez, je sais pas, dans tel état, il y a une loi, soit coutumière, soit inscrite dans les codes, enfin, qui peut être injuste, bien sûr, ça peut se produire. Mais justement, on va pouvoir l'évaluer injuste, voyez, à partir de quoi? Bon, en ce sens, vous voyez, c'est le type de problème qu'on peut essayer de penser, enfin, qu'essaye de penser Kant, finalement. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire qu'une loi inscrite, telle qu'elle est instituée par les hommes, vous voyez, à partir de quand on va pouvoir dire qu'elle est injuste. Il lui dit qu'on est obligé de penser que en chaque homme, il y a cette expérience de l'impératif catégorique, c'est-à-dire ce qu'il appelle la loi morale, mais cette loi, c'est la loi de faire la loi. Ouais. Et faire la loi, c'est-à-dire faire l'universel, en somme. Voilà.
Il faut revoir totalement le cadre en quelque sorte. Et je me suppose, s'il est né après Darwin, on n'a jamais fait ce qu'il a fait. Parce que, effectivement, lorsque.
Enfin, je ne sais pas, il me semble, si vous voulez, que vu l'usage qu'on a fait du darwinisme. Une certaine vulgate, disons, darwinienne en matière morale, je pense qu'il est plutôt urgent, vous voyez, de ne pas s'en référer à Darwin pour penser la morale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voyez pas, mais je vous explicite, c'est-à-dire que, vous savez, le nazisme, par exemple, se référait, il y avait un darwinisme social, développé par Wallace, c'est ça. Donc, si vous voulez, surtout, je crois que se référer à Darwin, vous voyez, pour essayer de penser la morale, c'est pour faire attention.
Okay, il y a la sociobiologie actuellement qui a décrit à certaines personnes, mais à mon avis, c'est une philosophie assez morale. Elle me dit tout simplement que nous sommes, notre morale, nous sommes un groupe, en quelque sorte, un groupe d'êtres qui ont vaincu, en quelque sorte. C'est la preuve que nous sommes espèce qui ont vaincu. Mais on n'a pas vaincu individuellement, on a vaincu coopérativement, collectivement. Donc on est devait pour. On doit notre victoire à notre. À nos lois morales, en quelque sorte. Et donc, nos lois morales ne sont pas abstraites comme chez Kant, parce qu'il ne comprenait pas à l'époque que nous ne sommes pas qu'une espèce vainqueur. Il les cherchait ailleurs, quelque part. Mais maintenant, on peut voir si nous ne sommes qu'une espèce vainqueur. Donc, les règles que nous sommes élaborées pendant l'évolution sont fondamentalement très primitifs, très simples et très rationnels.
Ouais, très rationnel, je comprends, mais.
On est agressif parce qu'il y a
des. Si vous voulez, moi par exemple, hein, j'ai envie de faire une distinction là, puisque. De penser que la théorie de l'évolution est l'alpha et l'oméga, finalement, enfin, ce qui permettrait de rendre compte de toute pensée, toute production humaine. Moi, par exemple, j'ai envie de vous dire, vous confondez, à mon avis, hein, la question de l'origine, la question du fondement, par exemple. Puisque vous parliez des sciences, on peut bien expliquer, peut-être, hein, par certains traits de l'évolution de certaines sociétés, par exemple la société grecque, le fait que, effectivement, ce soit dans cette société plutôt que dans une autre, ce qui est apparu, enfin, ce qui est apparu de mathématiques, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, là est née la science mathématique, vraiment, en tant que science. Hein. On peut expliquer, c'est une société, c'est pas l'origine, c'est une société qui valorise très fort le discours d'une société démocratique, hein, qui valorise du coup le dialogue, etc., bon, qui valorise la recherche intellectuelle, bon, alors ça, par exemple, ça c'est une des origines, hein, qui va aller vraiment être dans une société très particulière, qui valorise à ce point-là le dialogue et le logos, quoi, pour que les mathématiques puissent naître. Bon, ça c'est l'origine. Maintenant, si vous voulez, le fondement des mathématiques, il est chez Euclide, ou chez d'autres. Si vous voulez, ça n'a rien à voir avec la question de l'origine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas du tout, si vous voulez, tout écraser, toute production de pensée, simplement, si vous voulez, sur la question de l'origine, la genèse, comme ça, je ne sais pas comment dire, en l'occurrence biologique, vous voyez. Bon. Ah, bref, on ne va pas. Oui ?
Je vais passer à un autre aspect. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est que.
Alors, j'en ai pas parlé, hein, c'est, parce que normalement c'est plutôt pour la prochaine fois. Mais. Oui, Kant parle de volonté bonne, mais pas tout à fait de bonne volonté. Peut-être pas tout à fait. Bon.
Je ne l'ai pas lu en allemand, hein, mais par exemple, dans l'explication qu'en donne Altier, je vois bien bonne volonté.
Oui, mais c'est parce qu'il me semble que ça. Enfin, je me semble que ça a quand même des résonances en français qui. Je ne sais pas, parce qu'il me semble que quand on parle de bonne volonté, il me semble qu'on parle presque d'une sorte d'inclination, hein, d'un bon caractère.
Et alors là, justement, on n'est pas du tout dans Kant, quoi. Parce que, surtout, la morale n'est pas du côté de l'inclination, du penchant.
Hein. La pure volonté.
Voilà, il faut qu'on soit dans la pure volonté, hein, sinon on est dans du... Voilà. Ou sans intérêt. Hein, parce que...
Mais ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous dites que le 19e siècle, c'est le siècle de la bêtise. Mais au point de vue littéraire, c'est là qu'on a eu les plus grands écrivains. Je cite Hugo, Balzac, Lamartine, Zola, Chateaubriand. Ça, j'ai du mal à comprendre.
Oui, oui, oui. Non, mais j'ai pas... Alors justement, je n'ai pas dit que c'est...
Oui. Et Flaubert, a montré que c'était effectivement le siècle de la bêtise, puisqu'il a fait son bêtisier à la
oui.
suite. Mais Flaubert, c'est celui que je connais moins. C'est je connais bien les 50, mais je connais moins Flaubert. C'est pour ça que je parlais que ce que je connais. Ah, vous avez les lire. Il a parlé sur la bêtise. Enfin, il a montré ce que c'était la bêtise.
Oui, 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 mais si vous voulez, mon idée, c'est que la bêtise là que je cherche à... Je suis interrogé, là, si vous voulez, pas la bêtise, si vous voulez, ce que j'essaie de dire, qui serait le pur négatif de l'intelligence, vous voyez. Donc, je veux pas dire que tous ces gens sont nuls, sont bêtes. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'ils sont extrêmement intelligents et que leur intelligence, et peut-être leur passion de la vérité ou du sens, fait qu'ils rencontrent la bêtise comme jamais on l'avait rencontrée. Que la question de la bêtise est au cœur vraiment de leur réflexion. Mais en plus, au cœur de la réflexion, pas du tout sur le mode où on trouve la bêtise traitée, je ne sais pas, chez Voltaire même. Bon, Voltaire va dénoncer la bêtise des juges, hein, de tout un milieu, bon, de tout un voilà une ignorance, une malhonnêteté intellectuelle, toute une grossièreté, voilà. Mais Voltaire, lui, et le point de vue qu'il adopte dans son écriture, et le point de vue qui par lequel on a une intelligibilité, quoi, hein, c'est un point de vue qui est à distance. Nous on ricane avec Voltaire d'ailleurs, c'est quand même grand. Voltaire fait tomber les masques, il suffit de... Et puis on ricane, hein, on est à distance, ah, 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 c'est des... Bon, ouais, je caricature un peu, mais... Au XIXe siècle, ce qui se passe, c'est que, non seulement toute la réflexion rencontre la question de la bêtise, et rencontre aussi la question de la folie, d'ailleurs, mais pas comme quelque chose dont il s'agit de ricaner, pas quelque chose qui est simplement extérieur, c'est pas même simplement quelque chose qui est inquiétant. Ce qui me frappe, c'est que la question de la bêtise, alors chez Flaubert, mais il me semble que ça serait vrai aussi chez Hugo, elle est intérieure. Elle est intérieure à l'intelligence, elle est intérieure à l'écriture, elle est intérieure à l'intelligibilité. Vous voyez quand il dit Flaubert, pour prendre une formule, bon. Madame Bovary, c'est moi. Enfin, au fond, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il ne veut pas dire simplement « Ah, j'ai fait une analyse sur moi qui pourrait être une... » Vous voyez? Non, c'est bien ce rapport comme ça de lien intime, profond. Et donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il faut penser autrement la bêtise en même temps. Hein. Bien sûr que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la bêtise au sens de bah c'est nul, c'est rien, c'est vide, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, quoi? C'est très mystérieux au fond, quoi. Bon, le rapport avec Kant, il me semble un des rapports, le rapport que j'ai essayé d'établir, moi, c'est effectivement par la question morale. Il se trouve que Kant à la fois place la question de la moralité, là, ce qu'il appelle la raison pratique, au cœur vraiment de la pensée, quoi. C'est la grande affaire de la pensée. Et en même temps, il le fait finalement en inscrivant au cœur de chacun de nous un impératif qui nécessairement doit s'énoncer. C'est ça qui m'intéresse. Dans la langue commune, chacun doit pouvoir l'entendre. C'est ça qui est grave, ça aussi. Et ce qu'il entend, c'est l'obligation de jouer en permanence d'une sorte d'écart à sa propre langue, à la lettre, ce qu'on appelait la lettre de voix, etc. Vous voyez, comme dans la politesse, quoi. C'est ça qui l'inscrit. Alors, voilà, moi j'essaie de tirer ce fil, vous voyez, de voir si chez Kant, on n'aurait pas là un certain nombre d'outils, je peux dire, ouais, d'instruments, pour aller penser quelque chose qu'il ne pense pas du tout. Ouais. Là, j'essaie de mettre en place un peu, vous voyez, des bases, hein, tout ça. Hein. Mais voilà, pour essayer d'aller vers cette question de la bêtise, parce qu'il me semble qu'il y a un rapport, vous voyez, entre, en tout cas, entre la réflexion de Kant et puis un certain problème de la langue commune, en tout cas. Alors ensuite, bon, là où il y a un autre rapport, enfin, c'est purement thématique, hein, là, c'est assez purement intuitif, disons. Ce qui est sûr, c'est que chez Kant c'est quand même un penseur du passage à la limite, quoi. Il pense le passage à comment dire, il pense une raison qui oriente ce qu'il appelle l'entendement, c'est-à-dire la faculté pour nous connaître. Cette faculté de connaître est orientée par la raison, mais la raison, elle, ne peut faire que penser, ne peut rien connaître. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle pense sont des choses inconnaissables, qu'on ne veut pas vérifier. Bon. Mais en même temps, ces pensées invérifiables, elles orientent. Voilà, hein. Nous, on veut penser l'absolu, on veut penser la totalité, mais la totalité, on ne veut pas la connaître, on ne veut pas l'expérimenter. Mais en même temps, on ne peut pas faire, ne serait-ce que pour un principe de cohérence, on ne peut pas faire que toute notre pensée n'essaie pas l'orienter en fonction d'un principe qui est celui finalement de l'absolu. On ne peut pas faire qu'on ne peut pas l'orienter en fonction d'un inconditionné, quoi. Voilà. Bon, voilà. Kant, c'est un grand penseur de ce passage à la limite. Voilà. C'est le penseur du sublime. Ça, je serais conduit à en reparler, justement, en esthétique. C'est-à-dire, oui, il y a le beau et puis il y a le sublime. C'est-à-dire, c'est ce rapport à une sorte de dérèglement, en fait, de notre sentiment du beau, on peut dire ça, de notre goût au sublime, qui peut toucher presque à l'écœurement, hein, qui peut toucher au laid, le sublime. C'est bien un passage à la limite qui touche au dégoût. Ouais. Bon, cette pensée du sublime, là, il faudrait développer, mais enfin, qui touche bien, qui engage bien un rapport à la passage à la limite, ça me semble, vous voyez, intéressant, peut-être, pour essayer d'aller vers cette question de la bêtise, quoi.
Je commence en philosophie, quoi. Je me posais la question, comment on distingue un homme libre d'un autre? Parce que est-ce que on ne peut pas faire abstraction de notre subjectivité, quand même.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire
Vous parlez toujours d'universel, d'absolu, etc. Comme si les gens, finalement, quelque part, ils se ressentent tous, les hommes libres se ressentent tous, il n'y a pas de... Enfin, j'ai compris comme ça, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de...
Non, justement, j'ai... si vous voulez, l'impératif catégorique, c'est-à-dire l'expert de la loi, hein, chez Kant. Nous intime d'agir. Nous intime, c'est-à-dire, c'est peut-être, comment dire, il fait aussi la dimension de l'intimité, une certaine dimension, une certaine forme de l'intimité. Nous intime d'agir, il nous dit pas ce que c'est que, il nous dit pas ce qu'il faut faire. La seule loi, la loi de notre raison en tant qu'elle a à agir moralement, c'est cette loi de faire la loi. Et donc, si vous voulez faire la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis sur un pont, là, je reprends cet exemple qui m'est venu, je suis sur un pont, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce qui est sûr, c'est que la maxime d'action que je vais avoir, vous voyez, les raisons que je viens de donner, il faut que je puisse la transformer, il faudrait que je puisse l'universaliser, quoi. Bon, mais transformer en une loi universelle, à la rigueur, mais cette maxime d'action, elle a à voir avec une situation complètement particulière, qui se produit pour moi, mais qui se produira pour personne d'autre, et un autre trouvera dans une situation complètement différente. Ce n'est pas parce qu'on a rapport à l'universel que ça abolit la dimension de ce qui nous singularise. Je dirais même que c'est la force de Kant, il arrive justement à penser les deux et à montrer que c'est même parce qu'il y a la loi qui a du singulier aussi. Je veux dire, c'est une expérience commune qu'on fait. Parfois, il y a quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi il agit comme ça. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'on n'était pas à sa place, etc. Voilà. Mais si on lui demande, si on prend le temps de l'écouter, bon, qu'il est en confiance, tout ça, je ne sais pas, qu'il explique. Mais justement, il va expliquer. Qu'est-ce qu'il va fournir? Des raisons. Et on va bien voir à la fin si ces raisons, elles sont bonnes ou pas. Et pourquoi elles seront bonnes ou pas bonnes? Mais parce que... s'il nous explique qu'il a défendu finalement, si les raisons qu'il avance simplement, il vient de soutenir simplement son intérêt, sans considération pour la personne d'autrui, elles ne seront pas bonnes, moralement, elles ne seront pas bonnes. Mais les raisons qu'il aura avancées finalement, à travers le dédale de la situation particulière dans laquelle il se trouvait, c'est sa situation dans laquelle aucun autre ne s'est jamais trouvé, peut-être, et ne se retrouvera, quoi. Néanmoins, il peut formuler des raisons là-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la pensée hein, qui nous... La pensée, c'est pas ça qui interdit la... l'universalité fait pas que nous ne sommes pas des êtres différents. Je dirais que c'est même exactement l'inverse. C'est quoi l'universel? C'est faire la distinction notamment entre le vrai et le faux, enfin, tout simplement. Hein? Tu peux affirmer qu'une chose est vraie et que l'autre est fausse. Bon. Alors, moi, je peux affirmer, voilà, qu'il est telle heure à tel moment et que j'éprouve, par exemple, tel sentiment parce que j'ai telle expérience. Et c'est vrai. Et si je peux en parler de mon expérience singulière, c'est bien parce que je peux faire un partage entre le vrai et le faux. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai du rapport à l'universel. Vous voyez? Et c'est justement la force de Kant... De placer la loi morale comme impératif au cœur des sujets, c'est-à-dire c'est simplement l'intimation à faire la loi, quoi. Mais à faire quelque chose qui est de la loi, hein, pas faire, enfin, pas exposer sa simple particularité, hein, ça c'est plutôt faire le mal, quoi, justement.
Quelqu'un qui ne connaît pas la loi, est-ce forcément
moral? Et pourquoi on ne peut pas ne pas connaître la loi? Voilà, mais la loi ici, c'est simplement ce qui fait que on a tous rapport au devoir, à la dimension du devoir. Voilà. Et dès lors qu'on est un sujet humain parlant, on a affaire à la dimension du devoir. Et donc, dès lors, on a affaire à la dimension, ce qu'il appelle l'impératif catégorique. C'est-à-dire qu'on sait nécessairement que, bah, y a des choses qu'on doit faire parce qu'il faut les faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ça... Alors, chacun le déterminer, mais rationnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça la question. Hein. Rationnellement. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir en rendre raison de ce qu'on fait. Mais c'est fort, Quentin, de ce point de vue. Si je voulais, il rejoint des choses que vous pouvez dire en sens Aristote, avec une pensée complètement différente, mais... Bon, Aristote, il en venait même à dire qu'est-ce qu'un homme juste, je vais très vite, mais enfin... Enfin, qu'est-ce qui est juste? C'est ce que fait un homme juste. Ça semble... Comment il peut dire une chose comme ça? Mais c'est parce que ce que veut dire, en un sens, Aristote, c'est que celui qui... quand on est dans l'action, hein, ce qu'il appelle les affaires humaines, quoi, bon, on n'est pas là dans... oui, où on n'est pas dans les relations constantes, vous voyez... bon, je sais pas, dans les mouvements des planètes réguliers, mettons, vous voyez, c'est des modèles des Grecs. Bon. Bref, quand on est dans le domaine des affaires humaines, bah, à quoi on est confronté? À quoi était confronté Périclès? À des événements qui n'étaient jamais produits, vous voyez, jamais, bon, à des choses absolument nouvelles. Il était confronté à des circonstances toujours particulières, en fait, comme tout politique, ouais,
comme être toute personne qui est vraiment dans l'action. Et donc, on ne peut pas énoncer une espèce, vous voyez, on ne peut pas énoncer des règles générales, vous voyez, et un homme d'action, c'est pas quelqu'un qui peut simplement appliquer des préceptes, vous voyez, ou des règles générales de conduite. Mais en même temps, ce qu'on constate, ce que constatait Aristote, c'est que, bah oui, mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des grands hommes politiques. Donc visiblement, ils s'orientent rationnellement, les grands hommes d'action. Donc c'est bien qu'il y a de la rationalité. Mais c'est une rationalité, en fait, qui se confond avec eux. C'est une rationalité qui se confond avec eux, j'ai envie de dire, vous savez, c'est comme le général de Gaulle disait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas de Gaulle, mais bon, on peut reconnaître un grand politique. Et en tout cas, de Gaulle avait une formule que je trouve intéressante, il disait, moi le gaullisme, je ne sais pas ce que c'est. Non mais vous voyez ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas le formuler en termes de théorie générale, et puis ensuite lui-même il aurait une théorie. Il aurait une théorie générale et puis il aurait pu appliquer. Non. Il est, si vous voulez, alors on peut rendre compte de ce qu'a fait de Gaulle. On peut en rendre raison. Mais si vous voulez, on va en rendre raison à partir de la position singulière dans laquelle il était, à tel moment, avec ce dont il disposait, face à tel événement. On va pouvoir en rendre raison quand même. Hein. Ça dit bien raison. Ouais.
Mais il y a une chose pour, par exemple, peut-être un bouddhiste ou un taoïste, ou je ne sais quoi, qui pourrait dire qu'il faut mieux le laisser se noyer pour qu'il finisse son karma.
Non,
mais
enfin, ça, c'est déjà le taoïsme.
Non, ça, c'est ça, mais quand même, on peut avoir des raisons qu'on peut croire.
Mais vous avez raison, il y a des...
Non, mais il peut y avoir, je ne sais pas, on peut imaginer des raisons morales différentes sur un sujet. Pour ça, je pense que
si c'est ça, par contre, on peut, après, dans le raisonnement...
Parce que ça veut dire c'est la morale.
Si le type, il saute du pont... Parce qu'il veut se suicider, bon, on va le sauver malgré lui, en rentrant dans des situations, mais là, c'est un accident, tu vois, devant toi, un truc qui arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le pouvoir de venir en aide? Ou bien, je dis, je suis tenu à l'impossible, tant pis si je meurs. Ou bien, effectivement, j'ai moyen de sauver. Tu vois, tu raisonnes à un moment de...
Non, mais on pourrait s'imaginer, par exemple, qu'on est... Non, mais je comprends ce que vous dites. Non, mais par exemple, dans ce cas de figure, on pourrait dire, je sais pas, oui, il n'y a aucun danger, je suis champion de natation, mais on est dimanche, et il se trouve que j'appartiens à, je sais pas moi, un courant, si je puis dire, religieux, qui m'interdit tout contact avec l'eau le dimanche. Bon, alors du coup, vous avez raison. Mais bon, d'une part, vous voyez bien ce dans quoi on tombe. C'est-à-dire qu'à ce compte-là, vous savez, les nazis aussi, d'ailleurs, avaient une morale. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que... Oui, mais là, le problème, c'est qu'on tombe dans le relativisme.
Thierry, ton histoire, je ne suis pas d'accord. Le type qui dit « ma religion m'interdit de sauter le dimanche », à partir de ce moment-là, c'est plus un homme libre qui cause.
Mais voilà,
à un moment donné, tu te dictes, toi, par rapport, tu vois, une chose, qu'est-ce que tu fais? Tu as les capacités, là, tu vas. Mais bon, dimanche, je ne plonge pas pour sauver un être humain. Bon, là, je suis plus, j'agis plus, je suis plus libre.
Mais oui, voilà, c'est bien ce problème-là que tu essayes de répondre quand.
C'est l'idée un peu que la morale, c'est la morale des autres.
Ben, justement, on ne peut pas s'en tenir à ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien dégager des fondements rationnels de la morale. Et en plus, le problème, c'est qu'en plus, il faut bien trouver ces fondements en nous-mêmes, comme déjà inscrits en nous. Voilà. Donc, non, mais on peut penser que, par contre, on met parfois du temps à comprendre. Ça peut être recouvert. C'est une voie de la conscience dont parlait... Bon. Alors moi, je pense qu'on pourrait argumenter rationnellement pour montrer que cette position religieuse-là, même si on veut la comprendre du point d'une certaine formation historique, tout ça, elle n'est pas recevable. Voilà. Oui, vous vouliez... Après, je vous donnerai la parole, mais... Ah, je crois que vous avez levé la main avant. Non, mais allez-y, moi, je suis pas... Très bien. Fait honneur.
Non, parce que je me demandais justement si jusqu'à un certain point, parce que c'est un peu pour jouer les avocats du diable, le relativisme, on ne peut pas récupérer quand, dans la mesure où, si j'ai eu une éducation religieuse extrêmement forte, et bien peut-être que je peux vous parfaitement vouloir ériger tous ces principes religieux que, dont j'ai l'impression qu'ils sont les miens, j'ai l'impression que donc, je suis totalement autonome et que du coup je veux les ériger en principe universel. Et qu'est-ce qui m'empêcherait en quelque sorte à ce moment-là de me battre avec Kant pour décider que bah, si les femmes sont inférieures, on peut leur faire des tas de trucs affreux, on peut. Dans la mesure où pour moi, c'est totalement universel, et quelqu'un qui discute avec ces principes-là, avec Kant ou quelqu'un comme vous, je sais, à la limite, qu'est-ce que vous lui dites pour essayer de le persuader ça,
c'est que si vous voulez. Si vous voulez, c'est que.
Elle est très intéressée.
Non, mais c'est
non,
que.
Mais
c'est
que... Je suis professeur d'anglais, et en Angleterre, ce relativisme moral est très, très, très courant. Et je sais qu'il me pose beaucoup de problèmes. Enfin, personnellement, c'est un de mes problèmes, quoi, le relativisme moral. Est-ce qu'ils ont raison?
Un des paradoxes, c'est peut-être que.
On est beaucoup moins relativistes, parce que c'est nous qui avons raison. Le fameux histoire du foulard.
Bah, bien sûr. Voilà, je sais là-dessus. Bon. En tout cas. Non, mais il y a, ça ne trouve pas que la tradition, enfin
non,
la pensée.
Bon.
C'est-à-dire, on a tendance aujourd'hui à vouloir quand même à être assez relativiste, et souvent d'ailleurs au nom justement du respect de la différence, quoi, hein, d'un certain principe de tolérance, et en même temps à considérer qu'il y a une chose qui ne se discute pas, c'est la liberté, par contre. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand même là qu'il y a une contradiction. Par contre, sur le principe même de la liberté, je pense qu'il n'y a pas du tout de relativisme. Ouais. Et donc, il faudrait penser, là, ce non-relativisme. Ouais. Bon, enfin, vous voyez qu'on irait vite dans des contradictions qui nous obligeraient à sortir du relativisme, quoi. Mais par rapport à ce que vous dites, on ne peut pas universaliser n'importe quoi. Eh non, justement, c'est ça le... On ne peut pas universaliser n'importe quoi. C'est pas juste un énoncé général, hein. L'idée de faire loi, si vous voulez, c'est comme... en un sens, c'est comme en science, là, de ce point de vue. Oui. On ne peut pas dire n'importe quoi, ouais, sans se contredire. C'est je ne vais pas développer, mais l'idée qu'il y ait une contradiction logique, hein. Par exemple, à énoncer un droit à mentir, c'est une contradiction logique. Ouais. On nie pour soi-même... ce qu'en même temps on affirme, à savoir la possibilité de parler même, et donc que l'autre me croit, hein, on ne parle pas tout seul. Ouais. Alors si je parle, je ne peux pas faire du mensonge un devoir, parce qu'immédiatement ça signifierait que pour tout homme, ce que dit l'autre homme ne doit pas être cru. Ouais. Alors, donc, et moi-même, ce que je dis, vous voyez, c'est un argument, si vous voulez, cette loi-là, elle a une dimension objective. Elle a une dimension objective, fondée objectivement, quoi. Elle est fondée sur la raison, c'est-à-dire sur des critères universels en même temps.
Il n'y a pas de critères universels. Justement, vous êtes quand c'est subjectif, parce qu'il est dans l'air. Il ne peut rien prouver. Tandis que si nous concevons comme un groupe qui a son dû à encore survivre et progresser pour notre groupe, et égoïstement, donc on peut élaborer très simplement le rêve de victoire, en quelque sorte. Et parce qu'on a, comme espèce, on a vaincu, il n'a qu'à regarder notre rêve. C'est tout. Il ne faut pas le chercher dans le ciel, comme Kant.
Mais aussi, c'est votre point de vue des rapports entre les humains. Or là, je crois que c'est un autre débat. En revanche, moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Si tu dis, je commence en philosophie. Voilà le truc, tu vois. On a l'impression que pour pouvoir réfléchir, pour juger par soi-même des choses, on a besoin de connaître de Platon à aujourd'hui, de devenir des véritables encyclopédies, mais encore plus connaître dans les textes en allemand. Bon, ça, c'est un autre boulot, ça. C'est pas que de devenir philosophe. Je crois que c'est... chaque être réinvente, retrouve... Justement, j'ai reparlé par Kant, cette liberté de la raison, ou je ne sais pas comment dire, la raison de la liberté, en soi, elle est inscrite nulle part, ce bordel-là. Et on fait croire aux gens, et c'est pour ça qu'il y a tant de guerres, monsieur, de fascisme et de totalitarisme avec votre système, là, c'est parce qu'on dit aux hommes, la vérité, c'est ça, c'est comme ça, etc. Donc,
c'était ma question.
Donc la question, c'est que, depuis que vous êtes né, vous avez commencé à voir les choses, à parler, vous êtes en état de juger par vous-même, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, un texte philosophique, je veux dire, des fois on ne comprend rien, parce qu'il y a une première lecture, comme ça, on saisit des choses, parce que, comme a dit Thierry, c'est une écriture de langage commun, et des mots qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Et parfois, on a lu ce texte à 5 ans avant, on est passé comme ça, on lit 5 ans après, et tout d'un coup, on dit, mais il pense comme moi, mais je pense comme ça. Donc c'est ça qui est beau, dans les textes, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de se taper l'histoire de la philosophie comme une encyclopédie, on s'en fout, hein, on trouve n'importe où en bibliothèque, sur Internet et tout. Mais c'est effectivement quand on se questionne par rapport à un truc où il y a quelque chose qui nous titille, et bien c'est là que peut-être que là, voilà, et ces séances-là sont un petit peu conçues comme ça, ça donne assez de faim, cette curiosité pour aller voir chez cet auteur comment tout d'un coup il se passe quelque chose. Après, c'est des histoires de bons comme ça, de rebondissements. Donc il n'y a pas.
Voilà, moi j'aime pour aller dans le sens que tu dis, je viens juste après. Moi, c'est là, ce type de travail comme ça en commun, sur le principe, me plaît assez, justement, pour des raisons philosophiques, même aussi. C'est-à-dire que je pense que, justement, la philosophie, à la fois peut-être technique, et qu'en même temps, il y a quelque chose en philosophie qui doit pouvoir se mesurer à une certaine aune commune. Voilà. Et je trouve que c'est important de se mesurer justement à la parole commune. Et je trouve que c'est bien, justement, j'aime bien ce type, moi, d'espace là, dans lequel on n'intervient pas comme spécialiste en voyez, un discours très technique, mais on essaye aussi de s'adresser à des gens qui sont pas qui peuvent avoir des connaissances peut-être très cultivées et tout, mais qui sont pas nécessairement en position de spécialiste, quoi. Et je trouve que c'est une véritable épreuve de vérité pour la philosophie là aussi. C'est-à-dire que tout doit être compréhensible par tout le monde, tout ça, tout de suite. Mais pas plus qu'un morceau de Mozart est compréhensible toujours dans tous ces... Il y a des choses, c'est seulement des années après peut-être qu'on les entend, mais justement, on entend quand même les choses. Voilà, il me semble, c'est ce que tu... Voilà. Et moi, je trouve que c'est vrai. C'est aussi là-dessus que j'essaie de travailler, en sens, sur ce titre.
C'est vrai en art.
Mais c'est vrai en art, tout à fait, complètement. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça rejoint cette question de la langue commune, justement. Ouais, c'est ça qui me... Voilà, que j'essaie de réfléchir, là. Oui.
Oui, je voulais aussi intervenir ou rebondir sur ce que dit la dame, monsieur, c'est que, on est tous un peu philosophes. C'est que, je sais pas comment, même concernant la morale de Kant, là, bon, ça rejoint beaucoup la responsabilité aussi. À partir du moment où on est responsable déjà, c'est, je peux prendre un exemple, hein, de jeter un mouchoir dehors, hein, ou jeter ça dans une poubelle, c'est de prendre mon cas. Particulier et commencer à le généraliser.
Mmh.
Et puis là, on peut peut-être parler d'universalité et de dire que, voilà, si tout le monde faisait comme toi, eh ben, ce serait la catastrophe. Un exemple. Voilà, c'est pour dire que, bon, même si c'est simple, mais bon, on peut quand même parler aussi de...
Oui, ben en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lacan, il essaie de penser une expérience qui est une expérience commune, justement, quoi. Donc, qu'on formule pas, qu'on verbalise pas toujours, puis on va pas remonter toujours au principe, comme le fait Kant. Bon. Maintenant, est-ce qu'on est tous philosophes? Bon, parce qu'en ce cas-là, on pourrait dire, en ce cas-là, pourquoi des philosophes? Qu'est-ce que je veux dire?
Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi par rapport au langage, hein. Bon, c'est vrai que dans la philosophie, bon, ils ont un peu, hein, je ne sais pas me prétendre d'avoir étudié ou être philosophe, hein, mais bon, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où la responsabilité nous appelle à réfléchir, pensée, et puis on peut rejoindre ces philosophes.
Oui, oui, non mais pour aller dans votre sens, je pense que on est tous engagés, en tout cas c'est l'idée de la philosophie, dans les questions que pose la philosophie. Et les problèmes que pose la philosophie, ou qu'elle essaie d'apporter un certain nombre de réponses, sont les problèmes dans lesquels nous sommes engagés, quoi, de fait. Donc, je crois qu'effectivement, de ce point de vue, je ne sais pas si on doit dire qu'on est tous philosophes, mais on est tous engagés, en tout cas, dans des problèmes que vont essayer de réfléchir. Alors, si c'était simple, finalement, à résoudre, il n'y aura pas besoin de philosophes, parce que là, c'est complexe, mais c'est vrai qu'une certaine idée de la philosophie, c'est quand même de saisir de problèmes qui sont qui nous traversent tous, quoi.
Je dirais plutôt, on se pose tous des questions philosophiques.
Oui, ou qui iraient à être élaborées, oui, c'est sûr, qu'aurait un statut philosophique.
Du temps qu'il faut parfois, par rapport à ce qu'on voit, ce que l'on fait, de s'arrêter, puis de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé là, ça demande du temps. Comme à être un artiste professionnel, comme il y a cette dans la galerie, dans un centre d'art, ça demande du temps pour s'arrêter à faire ça. Donc, on a besoin de temps. Est-ce qu'on est pris complètement dans un boulot, train-train, machin, etc. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de prendre une espèce de recul pour voir ce qui s'est passé, de comprendre. Bon, maintenant, si je vois quelqu'un jeter un papier, machin, je ne vais pas commencer à l'engueuler, parce que ma façon d'envisager la philosophie n'est pas du tout de comment réprimer l'autre, parce qu'il a fait une incivilité. Je crois que c'est ce qui questionne, c'est moi, mon comportement à moi, vis-à-vis d'autrui, et pas forcément le comportement d'autrui vis-à-vis de moi. Bon, évidemment, je vais avoir une réaction, moi. Donc, c'est moi, comment je réagis face aux situations qui se présentent à moi, et comment je peux rationnellement expliquer ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, raisonnablement expliquer pourquoi j'ai opté d'intervenir de cette manière, ou de ne pas intervenir, parce que, encore une fois, si c'est impossible, je ne peux pas non plus me mettre dans une situation où je ne peux pas. Je peux expliquer raisonnablement pourquoi je ne pouvais pas. Mais si je peux intervenir et que j'ai les moyens, je n'interviens pas, à ce moment-là, c'est l'heure de la fuite. Une fuite où je n'ai pas rempli mon devoir. Mon devoir d'apporter à l'autre ce que je pouvais moi faire. Ma limite.
Oui, le terme de devoir est aujourd'hui, il est un peu... Ouais, ouais.
Oui, je reprends tes termes, mais enfin... ma responsabilité à moi vis-à-vis de moi. Bon, après, il y a des choses communes comme ça. Je sais que j'aurais pu faire, j'ai pas fait. Après, je sais que j'ai culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. Et moi, sachant que je pouvais faire, j'ai pas fait, après, il y a des expériences, comment je peux me regarder encore dans un miroir. Enfin, je fais exprès de prendre les trucs un peu courts comme ça, mais c'est de ça qu'on se parle. C'est de ça qu'on parle là. Et il s'agit en aucun cas de donner, des modèles de société, de machin, etc., etc., là, si on faisait ça. Non, ça s'arrête là, c'est...
Pour vous, le Kant, c'est un dieu, en quelque sorte, c'est l'être d'un
dieu. C'est pas un dieu.
C'est un peu comme une hypothèse absolue. Et on a... C'est justement la que nous a fait à renforcer la religion. Par exemple...
Non, mais on va. Vous savez qu'il est 10h30, 37.
Quand il n'est jamais cité par le sociologue moderne, il est régulier. Jamais.
Là, c'est un autre débat, peut-être qu'on y reviendra.
Bon.
Bien, écoute, merci. Alors, oui.